Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sans plus attendre, ce que je vous propose...
Bon, il est un peu loin.
C'est de passer... oui, c'est des stratégies. C'est de passer aux nouvelles. Et ça, c'est hyper original comme move.
J'avais pas vu. Ok. Aux petites news.
Et aux petites news de petites anecdotes, d'ailleurs, on a choisi la même news avec Mathieu, ce qui n'était jamais arrivé.
C'est la première fois que ça arrive.
Je crois que c'est même pas que j'ai vu ton retweet. Hein. Vraiment, je l'ai
non,
vu
non, je pense
indépendamment.
Tous les deux, ça nous a hypé.
Ça nous a fascinés et je te la laisse.
Ah ouais ?
Oui, je te la laisse parce que j'en ai trouvé une autre de rechange.
Oh, incroyable. du coup, bah, c'est un tweet d'Astropierre que je vous invite à suivre parce que visiblement, on a tous les deux bien aimé. Et je pensais pas qu'un jour, je parlerais juste d'une banale mise à jour dans une news underscore. Mais c'est vraiment le cas et je trouve ça incroyable. En gros, il y a eu un problème sur la sonde Voyager 1. Qui est donc vraiment une sonde qui a été lancée mais il y a super longtemps, en 1977. À l'époque, c'était codé, semble-t-il, en Fortran.
Fortran 5.
Fortran 5, très exactement, Fortran 5. Et en fait, c'est une sonde qui a été lancée pour qu'elle parcourt le plus de kilomètres possible. Donc là, elle est sortie de notre système solaire. Elle est à 24 milliards de kilomètres de distance. En fait, ils ont eu un problème sur la sonde. C'est qu'elle ne transmettait plus d'informations. Elle n'envoyait plus en fait ses rapports sur la Terre. Et donc, du coup, depuis 2022. Et donc, du coup, ils ont dû faire un patch, faire une mise à jour pour régler ce souci. Et déjà, se dire qu'il y a des ingénieurs de la NASA qui ont dû travailler sur du code en Fortran 5 pour mettre à jour ça, c'est quand même incroyable.
Le marché n'est pas énorme. Mais
le marché n'est pas énorme.
Mais bien payé.
Je pense qu'ils ont dû le tester avant de le mettre en prod, mais 15 milliards de fois. Et moi, ce qui me termine de rire, c'est vu que c'est à 24 milliards de kilomètres.
Ça met combien de temps pour arriver ?
Ça met 18 heures à la vitesse voilà. De la lumière. C'est-à-dire qu'ils ont lancé la mise à jour et ils se sont dit bon, on va prier pendant 18 heures. Et dans 18 heures, on saura si ça a marché.
C'était bien arrivé.
C'était pire MEP, quoi.
Et ouais, vraiment, je trouve ça incroyablement sympa.
Original.
Et original. Ouais. Et du coup, ils ont patch aussi Voyager 2 okay. Dans le même temps. Qui était seulement à 18 milliards de kilomètres. Oh, c'était une formalité.
Juste à côté. Effectivement, voilà. Je pense que très peu de deploy durent aussi longtemps.
Ouais, non.
Mais les intégrations continues qui durent 18 heures. A priori, normalement. Hein.
Ouais, ouais. C'est plus trop de l'intégration continue. Quoi. C'est le concept
c'est
est...
décalé. C'est...
Et du coup, en vrai, il me semblait que... C'est incroyable qu'elles marchent encore, non ? Parce qu'elles étaient pas censées marcher aussi longtemps.
Ah, de fou. Bah là, c'est 40
coup,
combien ?
À un moment, elles vont décéder.
Bah écoute, on sait pas quand, mais ouais, c'est. J'ai pas l'info dessus, mais oui, tout le monde est étonné que ça fonctionne encore.
Non, mais c'est une merveille.
Et c'est fou, quoi.
Tu dois bien serrer les fesses, quand même. Tiffany, petite news.
Tu
nous en as parlé ? Bah oui,
c'est
bien.
Désolé.
Moi, du coup, j'ai une petite backup qui est simplement un tweet que j'ai vu passer que je trouve assez original. Je sais pas exactement quel est l'appareil qu'ils utilisent pour faire ce genre d'analyse, mais en fait c'est les entrailles de AirPods d'Apple, les originaux, versus des copies chinoises. Et en gros, ça permet de comprendre pourquoi il y en a un qui coûte 4 fois plus cher que l'autre concrètement c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces deux objets qui à l'extérieur ont l'air parfaitement identiques et en fait pas du tout. Donc, il détaille un petit peu, si vous voulez aller voir le thread, c'est vraiment bien fait. Et ça permet de voir notamment la densité de composants, tu vois. Donc là, en fait, c'est vachement vide, les copies à droite.
Ouais.
Il montre aussi, il s'arrête un peu plus bas, il s'arrête sur les soudures où tu vois qu'en fait, c'est dégueulasse. Enfin, tu as des petits bouts de métal qui dégoulinent. Et alors qu'Apple, ils font, bah, c'est même pas soudé, en fait, j'ai oublié le terme exact, mais c'est directement sur la carte mère.
C'est propre, quoi.
Exactement. Je trouve ça assez marrant.
Ouais. Ils ont trouvé d'autres trucs
Non, il n'y a pas de mouchard caché qui envoie tes données en Chine. Mais, mais je trouvais ça marrant de voir visuellement la raison qui fait que... Enfin, voilà, l'explication du faible prix de ces clones.
Peut-être qu'il y a un mouchard caché, mais on ne le sait pas.
C'est pas le propos, en tout cas.
C'était pas le propos. Mais est-ce que ça vaut vraiment, du coup, le prix que ça coûte ?
Et les copies ou le, ou la, non, la vraie?
Les vraies.
Je pense qu'il s'est pas prononcé dessus parce que c'est trop subjectif, quoi. C'est-à-dire que ce que c'est comme toujours dans les appareils de, d'Apple, le prix des composants, c'est un dixième, en fait.
Ouais.
Et le reste, c'est de la R&D, du marketing.
Et surtout, en fait, sur l'audio, c'est assez simple de faire des contrefaçons de moins bonne qualité.
Ouais.
Parce qu'en fait, il suffit de mettre, tu prends tous les composants en audio faible qualité, t'en trouves plein et ça coûte en effet 10 fois moins cher. Mais du coup, bah, c'est, t'as beaucoup d'aigus, t'as pas beaucoup de médium et t'as pas beaucoup de basses. Enfin, ça, c'est un truc très classique dans les contrefaçons en termes d'audio.
Et surtout, c'est contrairement à de l'image, c'est pas instantané. C'est-à-dire que des gens qui ont l'oreille, ça va leur faire saigner.
Ouais. Et souvent, faut faire un comparatif pour s'en apercevoir. Ouais. Pour porter l'un et l'autre.
C'est assez relatif comme différence.
Mais c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je vois ces derniers mois-là des images comme t'as montré de CT scan, je crois, on a vu. Je pense qu'il y a un... Je sais pas si quelqu'un en a acquis la machine s'amuse à faire toutes les expériences du monde. Je sais pas si c'est la même personne ou si c'est la même société, etc.
Il fait des trades régulièrement et sur tout et rien.
C'est factuellement très joli à regarder. Je comprends pas tout, c'est très joli à regarder.
Ouais, c'est un bon système. Et sur ce, je vous annonce le petit programme de la soirée. On va commencer avec une chronique de moi. Pour commencer, tout simplement.
Est-ce qu'on est tous fatigués ce soir ou pas?
Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu... Enfin, en ce moment, il y a des annonces, mais tous les deux jours. Or, j'ai pas fait de chronique IA depuis à peu près 6 mois, donc je suis en manque, là. Donc, bref, je dois pallier à ça. Et vous faire une mise à jour là, de tout ce qui a été annoncé là cette semaine, notamment par OpenAI. J'en ai encore 4 autres des sujets, en fait. Mais clairement, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me calme. C'est pas vrai.
On n'a rien dit du tout.
Mais je vous les sortirai petit à petit parce que je sais qu'il y en a, qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas.
En même temps, c'est l'actu. Hein.
Exactement. C'est là que tout...
Non mais Tiffany, tu bosses dans l'IA. c'est quoi cette impartialité?
Mais c'est l'actu quand même.
Non, vous allez voir, je vous ai dégoté des petites démos vraiment très très stylées. Après, on aura une chronique de Mathieu sur les processeurs M3. Ce sera pas simplement un petit résumé comme moi, je vais le faire avec la conférence de OpenAI, mais tu vas un peu nous expliquer les coulisses de la création de ces puces, notamment des semi-conducteurs, des trucs comme ça.
Et un peu la stratégie cachée.
Stratégie cachée.
Dont je pense qu'il y a derrière ces processeurs finalement.
Et en troisième partie, vous avez intérêt à être encore avec nous parce que on est trop contents de recevoir enfin une boîte que tu suis, Mathieu, depuis un certain temps.
Je
veux dire qu'on attend d'avoir dans l'émission quand même.
Ah oui.
Qui s'appelle Alice et Bob. Mm. Est-ce que tu, en une phrase, comment tu...
Bah, vraiment, c'est des Français. Ils sont pas très nombreux. Qui fabriquent même un ordinateur quantique face notamment à Google et IBM.
Voilà.
Voilà. c'est vraiment incroyablement stylé ce qu'ils font. Et en plus, là, ils viennent, non seulement avec des images incroyables d'ordinateurs quantiques, je me suis spoilé, c'est vraiment très bon.
Il y a
une qualité de production qui est... Ils m'ont envoyé les images et fait « Ah ouais !»
Pas mal.
Mais surtout, ils viennent avec pourquoi ils pensent qu'ils peuvent arriver à faire un truc de malade. La technique derrière, comment ça fonctionne, un ordinateur quantique, et quel est le défi actuellement pour que on puisse arriver à avoir... Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas d'algorithme quantique qui fonctionne réellement. Il y a un peu des batailles de com à la con, mais eux, ils vont nous expliquer vraiment pourquoi et ce qu'ils font, eux, de leur côté.
Et ce n'est pas un procédé de narration. C'est-à-dire, quand on vous dit qu'ils ont vraiment des chances, parfois, on exagère un peu. On dit, ils vont peut-être dépasser Amazon. Mais non. Là, c'est pas faux, quoi. C'est vraiment...
Peut-être qu'ils vont rougir. Et moi, ce que je dis, c'est que ça se trouve, dans 10 ans, tout le monde connaîtra le nom d'Alice et Bob. Peut-être pas.
Peut-être pas.
Il y a plein d'étapes à faire, eux ils ont plein de travail à faire.
Ce qui est sûr, c'est que ce serait dommage de rater ça.
Ça c'est travailler l'entraînement.
Sans plus attendre, je propose de passer à ma chronique. Ce que je vous expliquais, c'est que on essaye ici de pas vous inonder de trop de nouvelles dans l'IA, mais là faut que ça sorte. Il faut savoir que tout le monde a décidé de sortir en même temps les plus grosses nouveautés en novembre 2023. Y compris OpenAI, qui, lors d'une grande... qu'on attendait depuis quelques mois, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui, lors d'une grosse conférence, a balancé dinguerie sur dinguerie. Et je dis pas ça pour faire comme les threads Twitter, là, un peu énervant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est, à chaque nouveauté, c'était un truc que j'attendais, en fait. Et c'est ça où je trouve qu'ils sont très, très forts quand même pour arriver à se synchroniser sur l'attente des gens, ce qui est un truc qui est facile à planter. Là, tout ce que je vais vous présenter, je vais le faire par ordre du plus évident, là, de ce dont tout le monde parle, jusqu'au truc dont on parle moins, mais qui sont pour moi même encore plus intéressants. Et vraiment, chaque truc est impressionnant ou va vraiment changer quelque chose, y compris nous pour la boîte. Enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous être directement utiles et à vous aussi peut-être. Ce qui était assez marrant, c'était de voir juste après la flopée de tweets de gens qui expliquaient que leur startup venait de disparaître.
Ah oui.
Tout simplement. Quand quelqu'un me demande combien de startups n'ont pas disparu.
En plus, il a la tête parfaite. Ouais,
non mais faut l'avouer, il y a énormément de startups et de soi-disant applis qui sont en réalité des rip-off des API d'OpenAI avec juste un prompt ou deux qui change clairement.
Mais du coup, normalement, tu t'y attends un peu.
Et on s'attend à ce qu'elles aient des durées de vie relativement faibles. C'est un peu comme Apple, en fait, quand ils implémentent une super appli qui était sur l'App Store, mais en natif, avec leur propre version hyper intégrée. Ben voilà, c'est une boîte qui coule.
Mais souvent, Apple, ça met 2-3 ans.
Ouais.
Là, c'est vrai qu'ils ont été rapides.
Là, la durée de vie des startups, c'est zéro. Parce que comme vous allez le voir, il y a des fonctionnalités qui vont permettre de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par des services extérieurs qui viennent combiner ChatGPT avec de la vision, avec de l'intelligence, avec des prompts, etc. Là, ils ont imaginé un système de marketplace directement intégré, en fait, où on peut créer des chatbots custom. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est du fine-tuning? Spoiler, non. Est-ce que c'est quand même quelque chose de très puissant, malgré que ça n'est pas du fine-tuning? Oui, je vais vous expliquer ça en détail. Concrètement, quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut customiser le comportement d'un chatbot, on a accès à quoi? Tiffany, tu me dis si je dis de la merde. De ce que j'ai bien compris, on peut modifier le prompt dit système, ce sont les premières instructions qui guident le plus le comportement d'un chatbot, la manière dont il va parler, et même dans son arbre statistique, où est-ce qu'il va se déplacer pour fournir des réponses d'experts dans tel ou tel domaine. On peut modifier des documents. Donc, par exemple, si le chatbot a accès à des fonctions, comme c'est le cas maintenant souvent, c'est-à-dire que c'est plus seulement de la génération de texte, mais ça devient des assistants qui peuvent appeler des fonctions qui évoluent dans un univers sandboxé sur les serveurs d'OpenAI, eh ben, on peut modifier quels sont les outils auxquels cet assistant a accès. Par exemple, là, tu peux créer un super assistant de la finance à qui tu fournis, par exemple, des CSV qui contiennent toutes les performances récentes de Tesla, Apple et compagnie. Et cet assistant va pouvoir requêter, pendant que tu lui parles, sans même que toi, tu t'en rendes compte, en réalité, il va pouvoir requêter ces documents. Et de réfléchir si je vois d'autres exemples, mais tu pourrais imaginer un chatbot qui est spécialiste de Midjourney et qui a dans sa base de données énormément d'exemples de super prompts qui marchent vachement bien. Et il a la documentation aussi complète du service dans son local storage, en fait. Et à chaque fois que tu vas lui parler, toi, t'es même pas au courant, mais derrière, en tâche de fond, il va aller faire des recherches, récupérer des informations dans certains documents, etc. C'est le tout début de cet App Store, donc on sait pas exactement ce qu'il va permettre concrètement, mais ça va être assez marrant parce que ils ont, on va dire que la friction pour customiser le comportement du bot est mille fois moindre que faire du fine-tuning, évidemment, qui demanderait énormément de ressources et de temps et de calcul à tout le monde. Là, chacun va pouvoir bidouiller avec. Et on sait que cet effet statistique-là est très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais découvert autant de trucs sur les modèles de diffusion s'il n'y avait pas des millions de gens qui avaient pu prendre un bâton et taper dedans dans tous les sens et voir ce qui sort, et ben il va probablement se passer la même chose avec cet App Store là. Donc moi j'ai trop hâte de voir c'est quoi les meilleures applications qui sortent.
Yeah, ouais.
On a quelques premiers exemples déjà. Donc c'est un mentor en mathématiques, quelqu'un qui a accès à plein de ressources sur comment écrire. Donc potentiellement que la personne qui a créé ce bot là a mis des bouquins de conseils sur l'écriture dans sa mémoire vive entre guillemets. Sur l'estrade, ils ont aussi fait une démonstration où le CEO Sam Altman expliquait qu'on lui posait tout le temps des questions sur comment créer une startup qui fonctionne. C'est quoi en fait ces conseils qu'il donnerait.
Ouais.
Il a créé son double virtuel en fait, qui est un chatbot qui a dans sa mémoire le bouquin qui pour lui est le plus important et qui synthétise tout ça. Il lui a donné quelques instructions pour qu'il se comporte de la bonne manière, qu'il soit proactif, qu'il réponde aux questions, etc. Et comme ça, il redirige maintenant les gens vers ce bot-là pour avoir des conseils sur l'entrepreneuriat. Et visiblement, les résultats, ils sont assez convaincants, quoi. Ouais. C'est un exemple parmi d'autres. Je sais pas si vous en avez, t'en as vu des intéressants, non?
Alors, bah, j'en ai vu des intéressants, mais parce que je travaille dans le,
oui, dans le domaine.
Et il y a certaines choses que je pourrais pas dire jusqu'à la fin. Moi, du coup, je vais me retenir. Mais il y a un parallèle que j'aime beaucoup utiliser par rapport à ce que tu viens de dire. C'est sur ces IA qui sont augmentées, donc elles sont pas fine-tunées, elles sont juste augmentées. C'est l'image du stagiaire. En fait, moi j'ai l'impression que c'est que les IA qui sont pas du tout augmentées, on va dire un ChatGPT normal comme il était avant à la base, c'est comme un stagiaire qui sort de l'école. Il est ultra bien formé, il est ultra compétent, mais il a jamais bossé et il connaît rien au business par exemple de ta boîte. Et quand il rentre le premier jour, eh ben il y a une différence entre demander à un stagiaire de faire quelque chose alors qu'il a aucun contexte et le premier jour lui donner un manuel ou un gros descriptif de tout ce que fait la boîte et c'est quoi le business case et enfin genre comment ça marche et tout, et ensuite lui demander de faire une tâche, tu vois. Et en fait c'est juste ça, tu donnes à ton stagiaire, donc à ton IA, toutes les connaissances dont elle a besoin et où est-ce qu'elle peut piocher, et en fait ça limite ce qu'on appelle les hallucinations dont tu avais déjà parlé à l'époque, ouais. Qui est qu'en fait, les IA, quand elles veulent répondre à une question, parfois elles sont complètement convaincues qu'elles disent la vérité, alors qu'en fait, elles essaient juste de trouver la réponse la plus statistiquement probable, ouais. Alors qu'en fait, quand tu leur donnes cette source d'information, elles sont obligées de chercher dans la source d'information la vérité. Et du coup, ça limite ces phénomènes d'hallucination-là qui posent problème, en fait, parce que du coup, les gens ont tendance à croire ce que disent les IA, alors que là, du coup, il y a quand même une source qui est vérifiée et tu peux faire en sorte que ton IA, si elle n'a pas trouvé dans la source, elle l'admette.
Ok.
Tu vois, donc, en fait, ça limite vraiment les hallucinations dans le sens où même si elle n'a pas la réponse, elle va te dire même dans ma stack de connaissances, en fait, je n'ai pas trouvé la réponse et je te le dis. Tu vois. Okay. Et là, elle est sûre et c'est assez cool.
Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que c'est pour de la donnée. Ouais. Mais il y a aussi dans cette marketplace-là l'accès à des outils. Du coup, les outils, ce serait quoi? C'est de la génération d'images, par exemple, ou de la compréhension, ou de la vision, ou de l'exécution de code dans des sandbox Python. On sait que OpenAI a développé ce système-là. Ce qui fait que tu peux avoir ton assistant qui est spécialisé à requêter sur une base de données SQL, par exemple. Donc, tu pourrais t'imaginer que dans ta boîte, t'as ta base de données de ton entreprise, et bah tous les jours tu la synchronises avec ton bot OpenAI, donc tu déportes ta base de données SQLite par exemple ou peu importe, et ton bot peut tout seul, sans que toute ton équipe soit au courant de la manière dont ça marche, et ben aller requêter cette base de données, tu vois, et te pondre des graphiques par exemple. Ça permet de faire en sorte que, je sais pas moi, quelqu'un qui est aux ressources humaines, qui a aucune notion technique, peut dire, ok, j'aimerais bien savoir c'est quoi le churn là sur les trois derniers mois de nos employés, et ça c'est vraiment un usage très très doux. Enfin, on est dans l'inconnu total des dingueries qui vont être faites avec ça, quoi. Donc trop hâte de voir ce que ça va donner. La deuxième grosse nouveauté, évidemment, c'est des questions de performance, donc la sortie de GPT-4 Turbo notamment. J'ai fait un petit aperçu donc dans le playground de ce que ça donne. Si vous avez déjà utilisé GPT-4 Turbo, vous savez que d'habitude ça va. Enfin, GPT-4, vous savez que ça va jamais aussi vite que ça. Mais je voulais des données un peu plus précises et j'ai trouvé un tracker qui mesure à chaque instant les temps de réponse des différents chatbots. Que ce soit ceux hébergés chez Microsoft Azure, que ce soit ceux d'Anthropic, que ce soit ceux de Google, etc. Et c'est assez stylé parce que on va vous le montrer. Il y a un graphe qui te montre au cours du temps lesquels répondent plus ou moins vite. Ça peut t'aider à prendre des décisions si ta boîte a besoin de telle ou telle API. Tu peux décider laquelle est la plus fiable, en fait, et répond le plus vite. Et là, si tu survoles tout à droite, on peut voir que, notamment, la différence entre le nouveau GPT-4 Turbo et l'ancien est astronomique. Ça passe de 16 secondes à 3 secondes de réponse moyenne.
Oh.
Sur un texte donné.
Joli.
Ouais, clairement, ça change beaucoup de choses. Ça peut paraître anodin parce qu'on peut se dire, ok, mais à quoi bon, en fait, là, on est en train de, moi je suis en train d'utiliser mon chat, il déroule plus vite que j'arrive à lire dans tous les cas, donc ouais. Je m'en fiche. Sauf que ce serait sous-estimer tous les cas d'usage qui sont techniques pour des développeurs.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de, cas où ce qu'on a envie de faire, c'est que, par exemple, quand un utilisateur clique sur un bouton, il y a toute un chain of thought, comme on dit, donc une série d'interactions qui se passent en arrière-plan sans qu'on en ait même connaissance et qui vont donner un résultat complètement dingue sans que l'utilisateur ait à voir toute la conversation. Et ce genre de cas d'usage peut nécessiter de faire des générations et des générations en arrière-plan, en fait.
Faut que ça aille à la vitesse de la pensée, en fait.
Exactement, faut que ça aille le plus vite possible. Ouais. Donc franchement, 16 secondes vers 3 secondes, ça fait très très plaisir. Mmh. Surtout que ça se combine avec une augmentation du contexte. Donc, vous le savez probablement que les chatbots ont une mémoire limitée, en gros. C'est-à-dire que la conversation qu'il y a au-dessus, il finit par l'oublier à un moment si elle dure trop longtemps. Et c'était 8000 tokens sur GPT-4 et ça passe à 128 000. Ce qui est...
Les ordres de grandeur,
c'est... Ce qui est dingue.
Ouais.
C'est complètement dingue. Ça pose quelques petites questions. Moi, je m'emballe pas trop parce que sur les gros contextes, tu me dis si je dis pas de bêtises, mais il y a des problématiques de... Alors, ils appellent ça le problème du trou. Alors, je sais plus comment on dirait ça en français. Mais c'est que concrètement, si tu donnes un bouquin entier, par exemple, à GPT-4 et que tu lui poses des questions... dont la réponse peut se trouver au début, au milieu ou à la fin, il va avoir tendance à trouver beaucoup plus de choses au début et à la fin de sa fenêtre de contexte.
Ok.
Et donc, et en fait, c'est un problème parce qu'on pourrait croire que sa mémoire, elle est comme la nôtre, en fait, elle est linéaire ou inversement, ou alors qu'il oublie le début,
ouais.
Comme nous, on oublierait nos souvenirs anciens. Mais en fait, non, il y a un phénomène où ce qui est au milieu, il l'utilise beaucoup moins dans sa réflexion, quoi. Donc, on attend de voir que ce soit sérieusement benchmarké par des sources externes. Mais si ça marche bien, avoir beaucoup de contexte, bah comme tu le disais, Tiffany, ça permet énormément de choses, en fait. Parce que si le stagiaire, on peut lui donner une toute petite documentation de 2 pages ou alors un bouquin entier,
ouais.
Et bah, ses capacités sont d'autant plus décuplées, quoi.
Donc, et ça, c'est dans le contexte.
Oui.
En plus, ouais.
Oui, c'est dans le contexte, pas dans une base de données.
Pas dans une base de données extérieure qui pourrait
vectoriser tout ça.
Mais le contexte est ultra puissant, ouais. Aussi.
Dire,
c'est pas le sujet, mais je trouverais ça super intéressant de comparer comment fonctionne la mémoire, entre guillemets, d'un LLM, d'un chatbot, versus notre mémoire.
C'est notre...
Parce que tu vois, t'as dit potentiellement elle est linéaire et tout, machin, je suis pas sûr. Je sais
non,
pas.
Non, les problèmes pas
mais du coup, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui ont théorisé sans doute comment fonctionne notre mémoire, par exemple, sur un livre ou sur un texte.
Ouais, ouais, non, c'est vrai.
C'est vrai. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le placement ou c'est juste de l'émotionnel? Bref, c'est pas le sujet.
Ce qui est sûr, c'est que ça doit être très très imagé.
Ouais.
Et du coup, si ça se trouve, ça doit être très très dur de comparer notre truc.
Oui, sans doute.
Je pense que c'est très différent en fonction des gens aussi. Alors que du coup, pour les modèles, c'est.
Ouais.
Toujours, ouais.
C'est toujours le problème des humains, ça. Mais ils sont différents, c'est chiant.
Et la troisième nouveauté, c'est une baisse drastique du prix. Ce qui fait très plaisir. On passe sur GPT-4 à de 3. On passe à 3 centimes. Bon, en gros, c'est divisé par... Je vais résumer.
Stadium explodes in joy.
On a un petit retour audio, merci. Pour GPT... En gros, pour GPT-4, les inputs, le prix des inputs est divisé par 3 et des outputs est divisé par 2. Bon, dites-vous que c'est beaucoup réduit, voilà.
Mais c'est par token, enfin c'est par...
Par token, oui.
Ok. Mais donc, comme tu peux en mettre plus, du coup...
Bah exactement, tu peux te retrouver en fait à avoir tes coûts qui ouais. augmentent. Mais pour la même, pour ce que tu avais avant,
ouais.
ça te coûtera 2 fois ou 3 fois moins cher.
Yes.
Okay. mais oui, tu peux avoir un effet, comment on appelle ça, un effet rebond en fait, où tu te mets beaucoup plus utilisé de
Bah je pense qu'il serait content d'avoir un effet rebond.
Je pense qu'il mise là-dessus aussi, à mon avis. La nouveauté suivante est là qui a donné à beaucoup de démonstrations très très sympas et très visuelles sur Twitter. Ce sont les API de GPT Vision et de DALL-E 3 qui sont enfin sortis. Ça faisait un moment qu'on pouvait faire joujou avec dans l'interface native du chatbot. Donc c'est GPT Vision, c'est le fait de pouvoir uploader une image et d'avoir une discussion dessus. Exemple, vous prenez une photo d'une caisse à outils ou d'un schéma et vous demandez à ChatGPT quel outil je devrais utiliser ou comment je pourrais résoudre ce schéma technique. Et va tout, aller pointer à tel ou tel endroit de l'image ce qui doit être fait. C'est très impressionnant et vous allez voir que une fois que c'est combiné avec le côté automatisation, parce que À partir du moment où il y a, qui dit API dit automatisation, dit qu'on peut le, aller le plugger à plein d'autres choses, ça devient vraiment puissant. La première démo que j'ai vue, que j'ai trouvé géniale, c'est du commentaire.
Look at him go. The crowd is roaring. Can you believe this? He's taken on the whole defense. He's a one-man show, ladies and gentlemen. He shoots. Go! Messi, Messi, Messi! Unbelievable. What a goal. What a goal.
Il sait que c'est
glorious.
Messi.
Absolutely glorious. The stadium explodes in joy. Ouais. This is football magic at its finest. Only Messi. Only Messi. Goal, goal, goal.
Ah, mais le plan d'avant, il était de loin. Dodging
one. Franchement, c'est vraiment très, très impressionnant. Et concrètement, comment ils ont fait ça? Ils ont pris la vidéo, ils ont pris une frame toutes les quarts de seconde, je crois, ou quelque chose comme ça, et il les a donné à l'API de chat de GPT Vision en lui demandant de décrire probablement quelles étaient les actions dans le jeu. Ce qui et en fait à partir du moment où tu as cette brique là où tu peux avoir un flux vidéo continu et en tirer une suite d'actions de qu'est-ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qui rentre dans la scène, qu'est-ce qui sort, etc. C'est fou. C'est juste tout ce que tu peux en faire est fou. Là, dans ce cas-là, ils ont imaginé un commentaire en direct d'une régie de foot. Mais on peut imaginer plein d'autres concepts. Il y a une autre démo qui est sortie qui était l'équivalent, mais avec une webcam. Concrètement, il a fait en sorte que toutes les secondes ou toutes les deux secondes, il y a une photo de sa webcam qui est prise et c'est envoyé à GPT Vision qui va décrire ce qui se passe. Donc là, il le voit, il prend un objet et il le met devant sa webcam pour voir ce qui se passe. Et t'as GPT Vision qui obtempère et qui explique qu'il vient de prendre sa boîte de Raspberry Pi.
C'est assez fou, ouais.
C'est assez dingue parce qu'en gros, la brique, on vient de trouver une brique supplémentaire dans notre set de Lego, en fait. Et on ne sait pas encore ce qui va être possible avec. C'est ça qui, moi, me fascine le plus.
J'ai l'impression que c'est un bon résumé de cette conférence. Alors moi, je ne l'ai pas trop suivi, mais de ce que tu racontes, c'est que globalement, ils ont rajouté des briques. Ils ont pris leur boîte de Lego et fait ben voilà, maintenant on a des nouvelles briques à vous présenter. Vous les avez à disposition.
Amusez-vous.
J'ai l'impression que c'est un peu le résumé.
Mais en fait, c'est super simple parce que c'était ce qui manquait un peu. En fait, on voyait le potentiel de ChatGPT et tout ça, et on a vu toutes ces entreprises se monter très rapidement pour faire ce genre de choses-là. En fait, ils se sont dit mais non, il faut rendre les choses plus facilement utilisables par les gens. Donc, on crée ces briques-là. Mais du coup, à partir de là, je pense qu'il va y avoir des choses complètement hallucinantes.
Mais c'est sûr, parce que déjà, là, on sentait que ce qui capait un petit peu les possibilités des GPT-4 et compagnie, c'est la compréhension du monde, c'est un peu de... Enfin voilà, c'est des hallucinations, il y a des choses comme ça, mais quand même, ils se débrouillent vraiment pas mal.
Ouais.
Mais on sentait qu'il y a un plafond de verre, ça restait la compréhension de l'image, en fait. Et imagine maintenant ce genre de modèle intégré dans un casque de réalité virtuelle, où tu as ton assistant qui a constamment le contexte de ce que tu dis, mais aussi ce que tu vois.
Mais en fait, là, tu vois, ce que tu dis, c'est comme si aux IA, on avait rajouté des yeux.
Ouais.
Et en fait, ce dont tu parlais avant, c'était leur donner la capacité de pouvoir faire des actions. Genre comme, par exemple, prendre des décisions, par exemple, sur des transactions financières ou des trucs comme ça. Et là, on leur donne des bras.
Ouais, c'est ça.
Et là, je pense qu'on commence à glisser doucement vers quelque chose de, où tu fais OK.
C'est stressant. Ouais. Non, mais c'est clair. Il y a évidemment, là, je partage tout mon enthousiasme. Mais bon, il y a une partie de moi qui a un peu peur de ce qu'on va voir dans 6 mois, quand même. D'autres démos qui utilisent ça, qui sont potentiellement plus pratiques, ou c'est sûr qu'elles vont être utilisées rapidement, en fait, par des boîtes, parce que c'est juste trop pratique, c'est de l'auto-mockup. J'ai appelé ça comme ça. Concrètement, vous faites un petit dessin d'une application ou d'un composant comme ferait un designer web, finalement. Donc là, ça, il fait un tweet en 2 secondes avec like, comment, partage, et un truc voilà, très très basique. Et il envoie à son API qui lui génère ça. Je ne sais pas si vous réalisez quand même, parce que le composant est propre, hein. Il n'est pas parfait, je pense qu'il pourrait encore l'améliorer. Mais en gros, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que l'image, son dessin fait en 2 secondes est envoyé à GPT Vision. Et à partir de ça, on lui demande directement, sans intermédiaire, de générer du code HTML en utilisant probablement une librairie de stylisation comme Tailwind pour faire le composant équivalent. Et c'est pas moche, c'est pas genre... Parce que ce genre de démo, ça existe depuis quelques années quand même.
Ouais. Ouais.
C'était pas foufou, hein. Là, ça commence à être vraiment utilisable.
En fait, ce qui est très intéressant avec cette démo-là, c'est qu'elles, comme tu dis, elles existent déjà depuis longtemps. Enfin, ça fait un moment qu'on essaie de générer des sites directement à partir de mock-up. Ouais. Mais ce qui est ultra intéressant, c'est de voir comment les technos derrière ont changé. Et je me rappelle que c'était il y a un an, quand je suis venue pour la première...
Il y a un outil de Microsoft, on avait parlé, ouais.
C'était pratiquement il y a un an, mais...
Non, il y a deux ans même.
C'était il y a deux ans ?
Oui,
probablement.
Oh, le temps passe <C'est... vite. rire> Mais je me rappelle qu'on avait parlé déjà à cette époque-là de, d'une techno qui était similaire, mais qui ne marchait pas du tout avec les mêmes algos. Et c'est fou comme ça va vite. Moi, je suis hallucinée.
Comme d'habitude. Ouais. On ne le dit plus, mais c'est vrai que... C'est
en fait, j'ai l'impression que des fois, c'est quand on travaille dans le domaine, on est encore plus à hyper que les gens qui ne travaillent pas dedans.
Oui, c'est vrai, parce que c'est plus dur de mesurer la vitesse de progression quand, de ton point de vue, c'est un peu de la magie, en fait.
mais parce que ce que tu viens de montrer là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire « Ah, mais j'avais déjà vu ça il y a longtemps.
Ouais. » En fait,
non, ce n'est pas du tout la même techno qui est derrière.
Ce n'est pas la même technologie.
C'est super intéressant, d'ailleurs, de regarder comment ça...
Ce n'est pas autant utilisable du tout. Là, vraiment, le code qui est pendu, j'ai regardé un peu, c'est du Tailwind, déjà. Ça utilise des règles de l'art, c'est responsive. En fait, tu peux vraiment l'utiliser dans ton projet, quoi.
Ouais.
Dernière démonstration sur GPT Vision. On peut appeler ça c'est quoi, ça?
Oh, le jeu d'acteur, oh là là, je le veux tous les jours.
L'intonation et tout.
Imagine, sur ton ordinateur, t'appuies sur un raccourci clavier, tu sélectionnes une zone n'importe où de ton image et tu demandes ce que c'est. Donc concrètement, tu sélectionnes la zone et tu demandes ce que c'est. Donc ça s'applique à, je sais pas moi, si tu es en train d'étudier des schémas scientifiques. Voilà, donc là, il va donner quel est l'os exact que tu as sélectionné, mais bien sûr. Ou alors si il va montrer aussi une équation mathématique où tu peux sélectionner un des paramètres et lui demander précisément qu'est-ce que c'est que cette constante là.
Ah, c'est génial.
Mais alors ça.
Ouais, c'est génial.
C'est trop bien. C'est trop bien.
Ok, là j'achète.
Non, mais... C'est que sur des images du coup.
Le pire, c'est actuellement c'est vraiment des screenshots et point barre. Alors non, ça peut marcher avec du texte hein, puisque GPT Vision comprend tout ce qui est texte. Mais moi, ce qui me fume, c'est que ça, c'est un script de 20 lignes. Hein. C'est-à-dire qu'il a juste connecté l'API avec la capture d'écran. Il n'y a aucun travail de sa part. Il n'y a pas d'intelligence. Tu vois, c'est le niveau zéro, quoi. Donc.
C'est l'idée.
Exactement. Qu'est-ce que ça va être quand ce sera des produits, entre guillemets, plus peaufinés, quoi.
Ça, c'est pas fait directement par OpenAI. C'est le mec qu'on a vu à l'écran, là.
Ouais, c'est ça. Il a connecté, je sais pas, tu prends un Recast ou un truc comme ça. Bam, tu fais une sélection d'écran. Quand tu obtiens une image, envoie une requête à OpenAI avec tel prompt. Dis-moi ce qu'il y a en une ligne. Bam, affiché à l'écran, t'as mis.
Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'ils nous ont donné des nouvelles pièces de Lego. Ils nous ont donné les moyens de les assembler, quoi.
Exactement.
En gros, c'est la conférence. C'est ils auraient pu en faire ça en 30 secondes. Ouais.
je réagis sur un message du chat qui dit que les IA pourront réaliser les CAPTCHA pour nous. La boucle est bouclée. Et c'est pas une blague.
Bah,
c'est-à-dire que j'ai vu des...
La première faille.
Non, mais là c'est...
Non, mais les CAPTCHA, fallait en même temps qu'ils se renouvellent un peu. Là. Non, mais honnêtement, des X et WZ, là, j'en ai marre.
J'ai vu sur un projet, sur un concurrent de GPT Vision open source, que leur modèle de démonstration, donc en gros, le dataset qui permet de faire un peu jouer avec le modèle, c'est les CAPTCHA. En gros, vraiment.
Moi, ce modèle, je suis sûr que tout le monde te le demande.
Je pense
dans le
c'est
chat.
Bakliyama, à mon avis.
Okay.
Et je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre. Mais en gros, tu t'installes le modèle et le premier truc qu'on te propose de faire, c'est de craquer les CAPTCHA. Je trouve ça juste le pied de nez à mourir de rire. Mais oui, ça pose question. Hein. C'est pas sûr qu'ils réussissent à faire une version suivante de CAPTCHA, hein, franchement.
Ouais.
Ça va devenir très compliqué. J'enchaîne parce que c'est le début. Okay. Ah non, il y a encore.
Peut-être arrêter de poser des questions. J'ai envie d'interagir.
Non, je vais aller un peu plus vite, mais honnêtement, il y a encore des trucs dont on a moins parlé qui sont pour moi vraiment intéressants. Le point suivant qui est un peu passé sous silence, c'est que on a maintenant un modèle directement dans l'interface de ChatGPT qui est all-in-one, dans le sens où avant il y avait la version normale, la version qui peut accéder à Internet, la version qui peut générer des images avec DALL-E 3, la version qui peut exécuter du code dans un environnement Python avec Data Science. Tout ça est maintenant réuni dans un seul modèle qui peut tout faire, en fait. Ce qui permet de débloquer des nouveaux usages qui n'existaient pas. Par exemple, quelqu'un a fait la démonstration, il a envoyé sa photo, il lui a demandé de générer un avatar avec. Donc juste drag and drop dans ChatGPT. Est-ce que tu peux générer un avatar? Et bim. Alors que avant, il aurait fallu lui demander une description précise de la photo, ensuite de générer un prompt pour Dali, et ensuite de faire un avatar. Là, c'est, on va dire que, comme tu le dis justement, ils ont connecté tous les trucs, ce qui débloque des nouveaux usages qui n'étaient pas possibles avant. Attention, en vrai, c'est un peu de la triche parce que c'est pas de l'image to image, c'est de l'image to texte to image en fait.
Ah.
Bah oui, parce qu'en fait, en arrière-plan, ouais, ce qu'on voit pas, c'est tous les prompts cachés que lui utilise. Et en fait, il décrit l'image à partir de laquelle il fait un avatar. Donc parfois, ça marche moins bien.
Ok.
Ah, ouais, oui, c'est bien de le savoir en vrai.
Bah oui, c'est bien de le savoir. Ouais. Et il y a que ici qu'on vous le dit parce que sur le
monde,
tweet,
il va direct.
Exactement. Ouais. Le tweet, il est en mode c'est génial, c'est une révolution, le monde va changer. Dans les faits, ça marche une fois sur trois.
Tu as essayé de le faire du coup.
Parce que j'ai essayé évidemment. Mais c'est cool. Non, mais c'est.
Alors
c'est
tout le monde va vouloir voir ses avatars. Mais
nouveauté d'après, c'est le text to speech. Et ça, c'est vraiment vraiment cool. Pour l'instant, il y avait en gros que Eleven Labs, qui est une entreprise spécialisée en text to speech, qui arrivait à un certain niveau de qualité, donc à produire des voix humanoïde qui soit pas trop malaise.
C'était pas mal quand même.
C'était impressionnant, vraiment c'était impressionnant.
On l'a déjà utilisé sur Underscore.
On l'a déjà utilisé
dans des vidéos.
pour faire des outros d'Underscore que je pouvais pas tourner. bon, ça se voit un tout petit peu, mais et ça coûte un petit peu cher à la requête.
Ah, okay.
Mais c'est quand même assez impressionnant. La version d'OpenAI, elle est seulement disponible sur 6 presets, mais qui marche très très bien. Et pour le coup, c'est deux fois moins cher.
C'est quoi 6 presets, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 voix différentes. D'ailleurs, j'ai fait une petite génération pour vous montrer un petit peu à quoi on peut s'attendre. Tout simplement, j'ai pris un des presets et je lui ai fait dire une phrase. Si tu arrives à l'envoyer.
Salut Underscore. J'espère que le chat va bien et que Micode raconte pas trop de conneries pour une fois. Allez, ciao les skip kiddies.
Mais du coup, on peut pas entraîner sa propre voix.
Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour avoir une voix ultra crédible. Parce que là, les intonations, les points d'exclamation, les trois petits points modifient vraiment la manière dont la personne parle.
Okay.
Et franchement, très quali, moins cher, très réactif. Moi, je prends. Et les deux derniers, je vais rapidement sur la fin.
Non, t'inquiète, prends ton temps.
Et les deux dernières annonces vraiment cool, c'est des intégrations dans les interfaces. Je vais expliciter ce que c'est exactement. Et une nouvelle version de Whisper, qui est un modèle open source très très cool. Je m'explique. Personne n'en a parlé de ça, mais pourtant, c'est assez original, j'ai trouvé, comme manière d'utiliser un modèle comme ChatGPT et leur système de fonctions. Concrètement, des développeurs vont pouvoir intégrer dans une web app un assistant qui n'est pas juste une petite boîte de discussion dans un coin, qui est le truc surutilisé, qui fait un peu chier tout le monde, en fait, mais faire en sorte que cette discussion-là ait un réel impact sur l'appli. Ils ont fait la démonstration en live, justement, de ce que ça pourrait donner, par exemple, sur une appli de conseil de voyage. Donc, concrètement, t'es là à discuter avec ton assistant qui te prépare ton voyage à Paris, et tu vas lui demander, je sais pas si t'as la vidéo, trop bien, et tu vas lui demander une série de conseils. En vrai, je pense que tu peux avancer un peu parce que ça met un peu de temps à arriver. Ah ben non, trop fort. tu vas lui demander peut-être 10 endroits que tu pourrais visiter sur la ville de Paris. Et plutôt que de simplement te donner les 10 endroits tout cuits, il va dynamiquement pouvoir modifier la page web sur laquelle tu es et la carte qui est à droite et te rajouter des petits points d'intérêt qui correspondent aux endroits. Je ne sais pas si on regarde un petit peu dans l'interface. En fait, c'est un peu plus petit. On mettra ça plus gros sur la VOD. Mais concrètement, l'interface ressemble à ça. Il y a une carte à droite, un assistant à gauche. Et plutôt que de simplement avoir d'un côté l'assistant, de l'autre ton appli, il y a une intégration forte en fait. Et l'assistant peut aller modifier la carte.
Ah ok, j'ai compris.
Et y rajouter les éléments.
Par exemple, si tu lui dis c'est trop loin pour moi ce point.
Ton petit point sur la carte, il va se déplacer pour te proposer d'autres choses.
Il va déplacer les monuments.
il prend un autre exemple où il met un fichier PDF dans la conversation avec ses billets. Et hop, les données du PDF sont lues automatiquement par ChatGPT et ensuite sont intégrées dans un composant de l'interface avec les bonnes heures et le bon aller-retour, etc. pour te générer, voilà, comme on peut voir à droite. Lui est modifiable par l'assistant.
Ouais, c'est
un peu flippant. Ouais. Mais...
et là, ça, c'est ouvert ou pas ?
C'est stylé. En fait, concrètement, ce qu'ils utilisent derrière, c'est leur système de fonctions et de JSON validé. Donc concrètement, voilà, faites pas de conneries.
Ce que je veux dire, c'est est-ce que les développeurs vont pouvoir s'en emparer et
bien sûr. Okay. En fait, ils n'utilisent que des choses qui sont déjà dispo. C'est juste qu'ils te montrent un peu qu'est-ce que tu peux faire avec de la validation de données de type JSON, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, ça permet d'être plus sûr que un assistant va générer des données interprétables par un programme automatique.
Ouais.
Donc c'est assez puissant.
Ah, visiblement, il y a des choses qui se préparent du côté d'Amazon, mais encore les dire. On est sur NDA à gauche.
Tout ce qui est validation d'output, c'est un truc sur lequel tout le monde bosse et qui est très très important. C'est déjà possible sur les modèles open source depuis genre un an et demi en vrai. C'est ça qui est marrant, c'est que parfois ils ont de l'avance.
Mais moi j'avais une question. Oui. Qu'est-ce qui te ferait plus utiliser ChatGPT, OpenAI, GPT-4, etc. que tous les modèles open source qu'on a pu voir sur plein de trucs différents. Honnêtement, j'en ai vu plein passer, j'ai un peu oublié tous les noms, mais Anthropic, Zephyr, etc. Ouais.
Je pense que tu as une place pour les deux, vraiment. À mon avis, tu vas avoir vraiment des applications différentes où l'un ou l'autre est plus pertinent. Dès que tu veux faire du fine-tuning sur tes propres données, en fait, partir d'un petit modèle ultra performant, c'est beaucoup plus réaliste et ça va te coûter genre un million de fois moins cher pour des performances relativement décuplées. Pour les modèles propriétaires privés, en vrai, pour l'instant, il n'y a rien qui arrive à leur niveau hein, en termes de capacité. Et quand tu vois que le prix que ça coûte, en fait, et les temps de latence que tu vas avoir et la non-infrastructure que tu dois déployer et la qualité du service qui est dispo à peu près tout le temps, en fait, il y a un moment, ça peut devenir quand même intéressant de devoir déployer toi-même tes propres modèles, tu vois. Ouais, donc le calcul va être un peu suivant ton usage.
C'est un peu bidouilleur, etc. Tu peux prendre des modèles open source, voir un peu ce qui se fait et tout. Si tu veux juste la fonction et l'utiliser au quotidien.
En fait, plus tu as besoin d'intelligence, plus tu vas te tourner vers des gros modèles propriétaires. En réalité, c'est ça.
Ah ouais ?
Ouais. C'est-à-dire que il y a un certain niveau de. Enfin, tu me dis, c'est ce que t'en penses. Je suis curieux d'avoir ton avis après. Je pense qu'il y a un certain niveau de. Je sais pas comment dire, mais de compréhension du monde, en fait, ou de logique, où on n'a pas encore d'équivalent open source de GPT-4 et Anthropic, etc.
Mais est-ce grave ?
En vrai, ça dépend. Ouais, ça dépend de ton use case. Hein. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire.
Souvent, t'as pas besoin d'un.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça un peu ce que sous-entendait ma question. Pardon.
En vrai, t'as rarement besoin d'avoir une telle performance. En fait, je parle dans la plupart des cas, en tout cas pour des petites applications, des entreprises, tout ça. Souvent, tu te rends compte que t'as pas besoin d'avoir une technologie comme ChatGPT ou des trucs comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, bah, tu peux bidouiller ton truc. Mais en fait, c'est. C'est, je pense, c'est tout le overhead là. Tout le fait de devoir comment dire, mettre à jour ton modèle ou alors l'infrastructure qui est derrière, la pénibilité en fait de devoir être sûr que c'est tout le temps au top, tu vois. Ouais. Et en fait, ça a toujours été comme ça. En fait, c'est toujours le même débat.
Du coup, ça
rien ne change avec l'IA. Normalement, j'ai envie de dire,
c'est le même débat. C'est toujours le même débat. Pour ceux qui aiment bien bricoler, très bien qu'ils y aillent, mais il y aura toujours beaucoup plus de taf. Et ce sera disponible aussi pour les gens qui veulent lancer leur truc rapidement et qui veulent mettre de l'IA directement dans leurs applis et que ça les dérange pas de payer un petit peu par mois. Donc voilà, le débat est toujours le même.
C'est ça. Et la dernière news qui, moi, m'a fait vraiment très plaisir, c'est le nouveau Whisper. Whisper, c'est un des derniers modèles open source d'OpenAI qu'on peut appeler Closed AI maintenant, parce que clairement,
il n'y a plus rien d'open. C'est un vrai problème de branding.
Il y a eu un changement de trajectoire. On peut quand même leur donner qu'ils ont un dernier modèle très compétitif où il n'y a juste pas d'équivalent actuellement sur le marché. C'est Whisper qu'ils ont encore amélioré pour leur version 3, donc Whisper V3. Concrètement, à peu près tous les langages ont un gain de performance. On a un petit graphe qui montre ça par langage. Tu vois le gain. Bon, il y en a où c'est énorme, où juste la V3 va tout changer. Ah ouais. Pour le français, on ne le voit pas très bien ici, mais pour le français, le gain est assez marginal, de l'ordre d'un petit pourcent et demi ou quelque chose comme ça. Mais en fait, pour vous expliquer, Whisper, ce que ça permet de faire, c'est d'écouter de l'audio et de le transcrire en texte. Donc c'est du speech to text. C'est ça qui vous permet de transformer une vidéo YouTube en un résumé en 10 points en fait. Ou alors c'est ça qui permettrait d'avoir un Jarvis qui comprend très précisément toutes les phrases que vous lui dites, même le vocabulaire ultra spécifique, même quand vous marmonnez dans votre barbe. C'est très important et très frustrant quand un assistant ne comprend pas bien ce qu'on lui dit, en fait. Et donc, ces modèles-là, c'est hyper, hyper crucial, en fait. Et on a encore du progrès à faire. Et donc, ce modèle est vraiment bienvenu. En français, ce ne sera pas dingue. Voilà, c'est une petite augmentation, mais 1%, en fait, il ne faut pas négliger ce que c'est. C'est quand même des dizaines et des dizaines de fautes en moins sur une transcription d'une discussion comme celle qu'on a en ce moment. Donc, franchement, ça fait très plaisir. Merci à eux de le garder open source, n'est-ce pas? Et s'ils pouvaient recommencer. Par exemple, en vrai, il y a plein de gens qui disent qu'ils pourraient mettre en open source GPT 3.5 Turbo. Il y a plein de gens qui disent ça et je suis assez d'accord. Parce que c'est probable, ça a leaké dans un papier de Microsoft ça ferait probablement 20 milliards de paramètres. Ça n'a pas été confirmé, etc. Mais c'est probable que, en fait, très loin des 130 qu'on s'imaginait, ce ChatGPT 3.5 Turbo, ce sera en réalité que 20 milliards de paramètres. Donc, si avec de la quantisation, bref, un truc pour le rendre un peu plus petit, concrètement, tu pourrais le charger sur à peu près n'importe quel gros GPU à ta maison, tu vois. C'est pas sûr qu'ils vont le faire, j'y crois même pas trop, mais ce serait vraiment un.
Mais s'ils le publient, est-ce que tu peux pas savoir un peu leur méthode de travail, d'entraînement des. Non.
Non.
Et... Je pense que les gens, ils veulent juste les poids.
Voilà. Oui, évidemment, mais t'as des effets de bord, forcément. Enfin, je pense que c'est un des trucs que tu réfléchis. Non,
mais bonne question. C'est une bonne question. Peut-être qu'ils veulent garder le secret de leur entraînement, etc. Mais franchement, ça serait.
Oh, moi, ouais,
ils remonteraient dans le cœur de beaucoup de gens s'ils faisaient ça. On verra.
C'est vrai qu'ils se sont un peu fermés dans le cœur des gens.
Mais oui, là, c'est franchement.
Alors que Facebook est devenu un.
Mais oui.
Un bon élève.
Mais c'est
alors
dingue.
Qu'à la base, c'est Facebook quand même.
Mais c'est dingue. Comment Meta, là, en quelques mois, dans la sphère tech. A pris un.
Mais, du coup, points. Conclusion, si vous êtes une boîte tech que tout le monde déteste, vous open sourcez un truc, les gens vous aiment bien.
Exactement.
Non mais, Facebook.
Ça prend un peu de temps.
Exemple de Facebook.
Mais c'est vrai. Bah, on rend.
Je sais pas si c'est.
Et la conclusion.
Mais... si c'est une bonne conclusion, si ça donne de l'espoir dans la vie, mais je sais pas.
Je sais pas si ça donne de l'espoir dans la vie, mais c'est tout à fait vrai.
Oui, c'est vrai.
Tout à fait vrai.
Et les seules petites déconvenues, les seuls trucs qui m'ont un petit peu déçu, c'est qu'il n'y a pas de diarisation. Ce qui est aussi un truc très important, c'est le fait de pouvoir repérer qui parle dans une conversation à plusieurs.
Ah oui.
Par exemple, quand je passe underscore dans Whisper, il a un peu de mal à savoir que c'est Tiffany, Mathieu ou moi qui est en train de parler. Et il y a des petits, des petits overlaps, etc. Non, ça marche, mais en gros, tu dois rajouter des algos et des technos par-dessus. Le modèle qui ne le gère pas nativement, c'est un peu dommage. Et j'aimerais bien j'aimerais bien qu'ils bossent un peu là-dessus, quoi, parce que c'est bon, quoi. Les pompes, leur travail gratuit. ce que je vous propose, parce que j'ai fait un énorme tunnel, c'est que si j'ai pas du tout regardé le chat. Oh coucou, petit raid de Bastille que je vois pour une fois alors que je le rate tout le temps.
Alors faut que je te raconte, c'est que quand on oublie de remercier un raid de Bastille, il m'envoie un message pour rire. Hein. C'est vraiment pour rire Bastille.
Waouh.
Mais il est là en mode super le raid.
Pour une fois,
et comme quoi il nous raid toujours. Il arrête pas de nous raid. Alors ça c'est sympa quand même.
Il dit il leak.
Il leak. Il continue de nous raid. C'est quand même sympa.
Donc si j'ai fait un tunnel, donc je n'ai pas suivi aucune de vos réactions. Donc s'il vous plaît, si vous avez des réactions à la conférence ou des trucs que vous avez vu que j'ai probablement raté, n'hésitez pas à les partager parce que je les ai juste pas vus en fait. Je peux essayer de remonter, mais vraiment là j'ai enchaîné parce que sinon ça allait être très très long. Diarisation avec un H. Non, pas ça.
Alors, c'est vrai que quand j'ai entendu le mot pour la première fois, je me suis dit tiens, est-ce que c'est le meilleur mot qu'ils aient choisi pour décrire la chose ?
En anglais, diarize. Je sais pas ce que ça veut exactement ce que ça veut dire en fait. Non. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs que peut-être vous avez vus ou qui, voilà, ou qui vous ont paru particulièrement intéressants?
Non, moi, pour rebondir, ouais. Moi, c'est pas un, c'est pour rebondir sur quelque chose. Donc, mais sur, pour rebondir sur à quel point ça va vite, moi, vraiment, quand je me refais l'échelle, la techno qui a permis les LLM, c'est 2017. Les premiers LLM, ça doit être quoi? 2019, 2020. GPT-3, ça doit être 2021 ou 22. ChatGPT 2022. Et enfin, vraiment, tu te dis, la techno, c'est 2017, on est en 2023. Vraiment, c'est la vitesse à laquelle ça va qui me sidère.
Ouais, c'est
impressionnant. Et il y a 5 ans, justement, on aurait. C'est quelqu'un qui disait, il y a 5 ans, on aurait pu se dire que la voiture autonome serait là dans 5 ans. Mais par contre, on n'aurait jamais pu dire qu'on aurait ce type d'IA avec lesquels converser. Résultat, on n'a pas la voiture autonome, on a les IA.
Et la voiture autonome, c'est. Mais il y a pas mal de gens que je trouve pas stupides du tout qui disent que c'est possible qu'on ne l'ait jamais.
Ouais. On a les mêmes sources.
C'est une take intéressante quand même.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est frappant de se dire.
C'est fou.
Tout le monde aurait dit à 10 ans qu'on serait plus conduit par des robots. Et non. À la place, on parle à des gens qui n'existent pas.
Voilà. Et du coup, je trouve ça vraiment fou l'évolution de tout ce que ça a permis.
Très, très stylé. Le fait que le pricing de l'input soit 3 fois moins cher et l'output 2 fois moins cher, c'est un bon signe pour encourager aux longs pré-prompts et aux embeddings. Oui, moi j'ai vu des gens se plaindre du fait que donc la nouvelle version de GPT-4 Turbo avait un contexte gigantesque où tu pouvais mettre un livre. Par contre, l'output, lui, était toujours limité à 4000 tokens. Donc tu peux pas faire écrire un livre GPT-4. Mais en fait, c'est pas si dramatique dans la mesure où tu peux toujours lui faire générer des choses et le mettre dans son ancien contexte et qu'il poursuive. Ce qui est un peu de la triche. C'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est le genre de truc que je vois en conversation que j'ai vu sur Twitter, par exemple. Voilà, où des gens se tapaient dessus à propos de ça. Donc la personne répond, mais non, mais tu dis n'importe quoi, t'as qu'à faire plusieurs générations. Mais en fait, cette personne n'a jamais essayé de produire des contenus de longue durée.
Ouais.
Pourquoi? Parce que, en fait, c'est hyper important la taille d'un output, d'un modèle de langage. Parce que, comme on le sait, les ChatGPT, ils ont très envie de conclure tout le temps. Ok, donc en fait, tu lui demandes d'écrire un article. Si tu entre un article écrit en une fois ou en 4 fois, en termes de qualité de la narration,
bah oui, ça n'a rien à voir, etc.
Ça n'a rien à voir en fait.
Mm. Bah c'est comme si on écrivait 4 mini articles, c'est nul. Exactement. Non mais si tu dois vulgariser de façon. Bah,
ou alors des articles où tu commences à partir sur quelque chose et après tu te mets à conclure tout de suite et après tu recommences et tu reconclus tout de suite. Clairement.
La rétention, c'est pas fou.
Non, clairement, ces gens n'ont jamais écrit de format long. Mais ouais. GPT-5 et GPT-6 en 2024, je crois que, de ce que j'ai compris, ils sont déjà en train de bosser sur GPT-4.5. Là, en réalité, les améliorations, c'est juste de la vitesse, mais on s'attend à un modèle bientôt qui soit GPT-4.5, où on passe un cap en termes de capacité de compréhension, de raisonnement, etc.
Moi, je me suis un peu perdu sur les... Ce qui ferait que ça serait un 4.5 ou un 5 ou un 6. Autant entre le 1, le 2, le 3, on l'avait bien. Un peu le 4. Mais là, maintenant, ça devient plus ou moins... Enfin, les numéros de version deviennent plus ou moins commerciaux ou...
Ouais, je sais pas. Non, je pense que ça décrit vraiment
toujours basé sur le même modèle, ouais.
Dans le sens où GPT 3.5, c'est vrai, de ce que j'ai compris en termes de taille de modèle, etc., c'est assez proche de GPT 3. Ouais. Et alors, là où sur GPT 4, ils ont complètement changé de système, en fait, où c'est un modèle, c'est un peu un Cerber. Dans le sens où c'est pas un seul modèle. Comment ça s'appelle? Tu sais, en gros.
Les multimodèles.
Ouais, c'est où en fait, sur le serveur, il n'y a pas qu'un modèle. Il y en a 8, en fait, mais qui sont scotchés ensemble et entraînés différemment. Et je savais. Enfin, je sais même pas comment ça marche. Mais...
Alors,
c'est des multimodèles, okay. Effectivement. Mais.
Je me permets.
C'est des secrets de fabrication.
Une chronique sur le sujet.
Ouais.
Moi, là, j'ai envie d'en savoir plus. Hein.
Okay.
Mickaël ou toi, Tiffany, vous me dites.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Si jamais ça peut se faire et c'est compréhensible, ouais. Etc. Franchement.
Surtout, non seulement. Eux, c'est un peu les pionniers là-dessus, mais maintenant, tu commences à avoir des modèles open source, par exemple. On dévie un peu, mais je m'autorise parce que la chronique est finie. Il y a des modèles open source, genre Mistral, qui est incroyable et qui fait seulement 7 milliards de paramètres. Il y a des gens qui tentent de reproduire du multimodèle. Avec des petits modèles comme ça open source. Par exemple, d'avoir 3 Mistral scotchés ensemble que tu entraînes à faire des choses différentes. Par exemple, produire un output, critiquer l'output et régénérer quelque chose de mieux. Et c'est pas juste du prompting, tu vois, vraiment, tu fine-tunes tes trois mini-modèles à faire ça. Mm. Et apparemment, ça, c'est le tout début, hein, mais apparemment, ça, c'est assez prometteur.
Ouais. Mistral qui est français.
Mistral qui est français et qu'on n'arrive pas à...
Lisez vos DM.
Mistral, lisez vos DM. On aimerait... Mais après, ils n'ont pas fait de presse ou de... Mais on n'est pas à la presse ici. Ce n'est pas la... Ce n'est pas un passage.
Vous venez sans aucune annonce, on est content.
Exactement, venez sans aucune annonce.
On discutera, mais...
C'est... Non, mais c'est sûr que si... Ce que je comprendrais, c'est qu'ils aient des... un peu des choses dans, le... dans la cuisine.
Au premier degré, je pense qu'ils n'ont juste pas lu mes DM. Voilà, c'est pas grave. Probable. Faut... Je vais les relancer. Pas de soucis.
Non, mais ce qui est probable aussi, c'est qu'ils ont des annonces prochaines à venir. Mm. Et que voilà, ils sont en mode... On bosse dans l'ombre et on balance des dingueries.
Ce que je comprends.
Ce que je respecte.
Ils se sont construits cet été, donc c'est quand même
jeune. Je pense qu'on va aller up quand même parce qu'on a trop envie de leur parler. À ces
maintenant qu'on l'a dit publiquement sur Twitch, je vais être up demain.
Et sur ce, je vous propose qu'on enchaîne parce qu'en fait, il est déjà 20h05.
Ouais, j'espère que nos invités n'ont pas quelque chose de prévu ce soir.
C'est clair. Et on enchaîne avec ta petite chronique.
Eh ben, c'est parti.
Petite ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Le soir d'Halloween, Apple a présenté dans sa keynote sa nouvelle gamme de processeurs, les M3, M3 Pro et M3 Max. Honnêtement, rien d'exceptionnel à se mettre sous la dent. En réalité, Mathieu, derrière le développement de ces puces Apple Silicon, il y aurait quand même une stratégie cachée dont peu de personnes ont parlé. Alors pourquoi est-ce que Apple développe ces puces ? Est-ce que ils ont vraiment est-ce qu'ils sont vraiment derrière la fabrication de ces puces ? Quel est l'intérêt pour le produit et l'utilisateur final de mettre en avant des M3 qui sont un tout petit peu meilleurs ? Tu vas nous parler de ça.
Ouais, et comme tu le disais en regardant les annonces d'Apple lors de sa keynote, ça m'a même un peu surpris qu'ils fassent une keynote pour ça. Parce que globalement, si je résume, ils ont annoncé leur nouvelle gamme de processeurs M3 gravé en 3 nanomètres. Certes, c'est les seuls à proposer des processeurs en 3 nanomètres, on va y revenir. Ils ont annoncé des nouveaux MacBook et des iMac avec cette nouvelle gamme de processeurs, mais pas grand-chose de plus. Et c'était fini, ça a duré une 30 minutes. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pour avoir suivi les conférences, les keynotes d'Apple il y a 5-7 ans, ils n'auraient pas fait une keynote juste pour ça. Ils auraient mis à jour les MacBook et les iMac sur le store, mais ils n'auraient pas fait une annonce. Après, je comprends. Ça fait plusieurs années qu'ils ont lancé ce qu'on appelle Apple Silicon, donc le fait de faire leur propre processeur pour ordinateur, ils le faisaient déjà pour les iPhones, et ils veulent mettre en avant ces nouveaux Mac et MacBook, et ça marche bien, le MacBook marche super bien.
J'ai dit que t'as oublié quand même la couleur noire sidérale, je te trouve un peu dur.
Pardon. C'est vrai qu'elle est belle. En plus, c'est vrai qu'elle est jolie. J'ai oublié la couleur noire sidérale. Non, mais ça m'a vraiment laissé en demi-temps parce que je me dis à quoi ça sert de faire une annonce pareille. Mais moi, j'y ai quand même trouvé une petite raison et je vais y revenir. Mais juste avant, pour vous expliquer ça, il faut qu'on comprenne un peu comment fonctionne un processeur. Donc, on va revenir un tout petit peu à la base du fonctionnement d'un processeur. Un processeur, déjà, c'est méga complexe. C'est vraiment très complexe. Et il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont capables de fabriquer des processeurs. Et même pour Apple, qui possède des milliards de dollars, c'est très compliqué. Et vous allez voir que c'est bien plus compliqué que ce que vous pensez. Un processeur, c'est avant tout un semi-conducteur. Donc, c'est un matériau dont on va pouvoir contrôler le fait qu'il conduit ou pas l'électricité. Et le fait qu'il conduit ou pas l'électricité, ça va permettre de faire des 0 et des 1. C'est ce qu'on appelle le dopage, le semi-conducteur. Le dopage, en fait, c'est ce qui contrôle la conductivité du semi-conducteur. Et c'est ce qui va créer les transistors qu'il y a par milliard dans un processeur. Et c'est ça qui fait les calculs d'un ordinateur. Il n'y a pas eu l'illustration, mais globalement, un matériau pour faire des semi-conducteurs très connu, c'est le silicium qui vient comme ça un peu sur des... C'est ce qu'on appelle des wafers. C'est un wafer de silicium. Donc c'est une plaque de silicium sur laquelle on vient faire les processeurs. Et en fait, les 3 nanomètres, c'est la distance, la fine couche de gravure. Et c'est la taille d'un atome d'hydrogène. Ouais. d'oxygène, je crois. Vraiment, qu'un cheveu, c'est 80 000 nanomètres à côté. Donc... Pour se dire qu'il y a des machines aujourd'hui qui sont capables de graver des plaques de silicium avec une finesse de 3 nanomètres, peux vous dire que c'est pas ta grand-mère qui va faire ça dans son garage, ni même le petit inventeur du coin.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est dur, en fait? Parce qu'on peut se dire, bon, faut un truc suffisamment pointu, entre guillemets. Genre, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment compliqué?
Alors, ce qui fait que c'est vraiment compliqué, c'est que la machine qui permet de faire ça, il y a globalement 3 sociétés dans le monde, je fais un petit aparté, mais ouais, c'est très bien, qui sont capables de faire ça. Il y a une société, c'est AS, alors, il faut que je retrouve son nom.
TSMC?
Non, c'est pas TSMC. ASML.
Ok.
C'est, voilà, exactement. Ça, c'est une machine qui permet de faire des processeurs. Ça a la taille d'un bus. Ça coûte 160 millions de dollars. Ouais. Et c'est fait par ASML. C'est une société aux Pays-Bas qui est sans doute une des sociétés les plus importantes au monde parce que c'est la seule machine capable de graver en 3 nanomètres à l'heure actuelle. Il n'y a que TSMC qui en a. On y reviendra.
C'est dingue.
Et ils ont à peu près 80% du marché des machines. Donc, c'est des machines à lithographie ou photolithographie qui permettent en fait de graver ces processeurs avec une finesse aussi importante.
Et donc, Apple ne le fait pas eux-mêmes. Quand on dit qu'ils font leur propre silicium, en fait, non. Enfin, Apple, ils font la puce.
Apple est incapable de produire et de fabriquer aucun processeur. Ils la conçoivent, ils l'ingénierient, ils la designent, si vous préférez. Mais ils ne fabriquent absolument aucun processeur. Les concurrents de ASML, c'est Nikon et Canon, mais ils sont assez en retard. Donc, c'est quand même deux gros puissances japonaises. Mais je crois que c'est quasiment les 3 seules sociétés. Il y en a d'autres, mais en tout cas, qui sont capables de faire des machines à lithographie modernes. Et ASML, on pourrait en faire une chronique dédiée, parce que c'est une entreprise absolument incroyable, paumée aux Pays-Bas, et qui, sans eux, toute l'industrie des semi-conducteurs s'effondre. Sauf qu'à la base, donc ça c'est pour remettre un peu dans le contexte, mais à la base, nous ce qu'on connaît de semi-conducteurs, c'est Intel. Intel, ils conçoivent leurs processeurs, ils les fabriquent, ils les vendent même en leur nom, Intel. Il y a Samsung qui le fait également. En France, il y a ST Microélectronique qui est un peu connu, installé vers Grenoble. C'est des acteurs historiques. Et puis il y a un moment, il y a eu un changement qui littéralement a tout changé dans le monde des semi-conducteurs. En fait, il a commencé à avoir une séparation entre les gens qui conçoivent les processeurs et les gens qui les fabriquent. On a appelé ça des fonderies pour les entreprises qui les fabriquent, et on a appelé ça des entreprises fabless, donc sans usine, pour ceux qui conçoivent les processeurs. Intel n'a pas fait ce choix. Ils sont restés dans le fait de produire toute la ligne, parce que ça paraît cohérent. Voilà, tu conçois un processeur jusqu'à le vendre, et c'est vrai que le choix n'était pas bête. Et en fait, c'est un peu l'autre choix qui l'a emporté. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des fabless d'un côté et des fonderies de l'autre, à tel point que AMD, concurrent d'Intel et qui fait des puces, a revendu sa part de fabrication, donc la fonderie.
Oui, d'accord.
C'est devenu Global Foundries.
D'accord.
Et AMD, maintenant,
ils ont coupé
désormais, est un fabless.
D'accord.
Qui, donc, du coup, conçoit ses processeurs et après va voir une fonderie. Et maintenant, vous nous les fabriquez. Ces fonderies achètent des machines à 160 millions de dollars ou 200 millions de dollars. Et c'est eux qui font les processeurs.
Est-ce que, alors, si ça se trouve, tu n'en as aucune idée, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais juste au cas où, est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi dans la précision de la gravure qui choque tout le monde, hein, parce que le fait que tu aies besoin d'un bus pour faire un truc plus petit qu'un cheveu, c'est quand même, ça paraît assez dingue. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire sur les 3 nanomètres où en fait c'est tellement petit que tu viens à être emmerdé par les interactions faibles il me semble que en gros ça participait à la complexité de concevoir des puces aussi précises, c'est que qu'en gros t'as des problèmes à l'échelle quantique qui te créent des erreurs dans tes calculs parce que t'as des interactions entre tes transistors.
Alors, j'ai pas la réponse exacte à ça parce que ça me dit un truc, cette histoire de problème quantique. Moi, ce que je sais, c'est que la gravure en 3 nanomètres a pris un petit peu de retard parce qu'en fait, c'est une chose d'arriver à le prouver, mais c'est une autre chose d'arriver à l'industrialiser. Typiquement, je crois que Samsung l'avait fait avant TSMC, donc un grand fond, une fonderie très connue à Taïwan qui est aujourd'hui leader du marché. Mais en fait, c'est TSMC qui a réussi à le faire en premier parce qu'ils ont réussi à l'industrialiser plus vite. Mais en effet, donc ça pose des problèmes. J'ai pas exactement la réponse sur le quantique. Par contre, j'ai une réponse sur une machine. En fait, ce fameux fabricant de TSMC, qui du coup travaille avec Apple et Apple travaille exclusivement avec TSMC, en fait a fait le pari d'une machine d'ASML de nouvelle génération vers les années 2019. Et cette machine, j'essaie juste de retrouver son nom, c'est la machine EUV pour extrême ultraviolet. Et en gros, il n'y a que cette machine aujourd'hui qui est capable de faire du 3 nanomètres. Donc Intel va être bientôt capable, hein, mais pour l'instant, ils n'ont pas cette capacité-là. Et c'est une Nikon et Canon sont entre guillemets un peu à la ramasse. Et c'est une machine, mais genre pour faire le laser, il faut 457 000 pièces. Enfin, c'est de l'ingénierie qui dépasse l'entendement. Bon, ça, c'était pour le petit aparté de cette machine en particulier. On pourra en faire une chronique si jamais ça vous intéresse. Je sais plus quelle était ta question juste avant que tu me lances sur la gravure.
Non, je sais plus.
Ok. Eh ben, on peut revenir sur le modèle. Donc, on a d'un côté des fonderies. Donc, j'en ai parlé, TSMC à Taïwan qui s'est lancé, UMC en Corée, Global Foundry aux États-Unis. Et de l'autre, je parlais des fabless. Vous allez reconnaître des noms. Qualcomm, fabless, ils font ces puces, mais ils ne les fabriquent pas. Qualcomm ne sait pas fabriquer.
C'est vrai, c'est marrant.
Non, tous les Qualcomm, c'est ceux qui tous les téléphones Android. Oui. C'est ils ont un modèle de on conçoit les puces.
D'accord.
C'est pas eux qui les fabriquent. Je sais que eux ils distribuent, ils en donnent à Samsung, ils en donnent à TSMC, ils en donnent potentiellement à d'autres acteurs également. C'est la même chose pour Nvidia. C'est la même chose pour Xilinx qui est connu pour ceux qui font du système embarqué ou qui minent des crypto-monnaies aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils utilisent des cartes Xilinx et AMD donc qui est devenu fabless et évidemment Apple. Quand ils se sont dit « Ok, potentiellement, il faut qu'on prenne notre indépendance vis-à-vis d'Intel parce qu'ils nous bloquent dans le fait de développer des Macs qui soient intéressants pour le grand public », ils se sont dit « Bon, on va faire comme l'iPhone, on va faire nos propres processeurs. » Ils ne fabriquent pas leurs propres processeurs, ils n'ont absolument aucune usine. C'est un fabless, donc un fabricant sans usine qui a un contrat avec TSMC pour fabriquer ses processeurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est déjà à deux strates. Donc, Intel fait tout d'un coup. Là, on est à... Il y a quelqu'un qui conçoit le processeur, qui le design en fonction de ses besoins. Apple, par exemple, ses besoins, c'était d'avoir un rapport performance-watts qui soit leader du marché. Et en gros, leur ligne de route, c'est pas forcément de faire les meilleurs processeurs, c'est de faire des processeurs performance par watts qui soient imbattables. Ils l'ont très bien testé avec l'iPhone.
Ouais.
Ça marche avec le Mac. Et en fait, il y a un troisième acteur, c'est ARM. Parce que ces processeurs Mac, on dit que c'est des architectures ARM. En fait, ARM, c'est une licence. Il faut payer le droit de pouvoir concevoir un processeur. Et donc, c'est pas le processeur, c'est pas l'architecture Intel x86, c'est l'architecture ARM qui est vendue à un fabless qui développe son propre processeur, par exemple l'Apple M3. Qui demande à un fondeur de faire ses Apple M3, M3 Max, M3 Pro, et qui va enfin se terminer dans nos MacBooks. Et donc ça, c'est toute la chaîne qui, pour Intel, en fait, de base, était une seule chaîne. Mais en fait, ils l'ont découpée en trois gros morceaux.
Moi, je m'étais demandé un moment, pourquoi est-ce que Apple utilisait une architecture de processeur qui était connue, pour laquelle ils devaient payer une licence plutôt que de faire comme à l'époque où vous avez co-créé le PowerPC.
Ouais, avec IBM.
Et je me demandais pourquoi pas revenir à l'ancienne et faire leur propre truc. J'ai regardé un petit peu, on sait pas exactement évidemment, mais c'est plausible qu'en fait la licence AMD, enfin la licence ARM soit pas trop chère.
Non.
Et qu'en fait juste ce que tu gagnes en nombre d'années en outillage, parce que ARM c'est ultra ultra testé et développé et enfin voilà, t'as énormément d'outillage pour ça à prendre un truc qui a déjà fait ses preuves en fait sur des millions et des millions d'appareils, de devices, où justement en performance par watt t'as un ratio qui est abusé. Apparemment le calcul est vite fait entre faire ta propre architecture versus utiliser ARM en fait.
Ouais, et alors ça va peut-être être un poil barbu et au pire on coupera de la VOD, mais ARM est une entreprise britannique et à mon avis eux ils vendent juste leur licence. Bon, je suppose qu'il y a un travail derrière, mais aujourd'hui, ils doivent vraiment se faire des couilles en or, si je peux me permettre. Et donc, je pense qu'elle est pas bien chère, peut-être même comparée par Intel. Et il y a des pays, notamment pour la souveraineté, la Russie et la Chine, qui essayent de développer leur propre jeu d'instruction, donc pour pas dépendre d'un acteur américain notamment. Et en fait, pour l'instant, ils se basent beaucoup sur des choses qui existent. Les Chinois, ils se sont basés sur MIPS, qui était un jeu d'instruction américain. D'autres, ils se basent sur ARM, parce qu'en fait, c'est quand même des choses super dures.
Mais comment tu sais ça?
Alors, de base, ça m'intéresse et je l'ai un peu étudié. Et de deux, j'ai un peu étudié le sujet. Mais d'ailleurs, on verra peut-être que si
le
ça m'intéresse...
Le gars connaît toutes les architectures de Bruxelles.
Non, pas tous. Mais il y en a une qui est super intéressante et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle RISC-V. Et c'est un jeu d'instruction qui est open source et libre, que tout le monde peut utiliser. Et du coup, tous les Russes, les Chinois et tout s'intéressent beaucoup parce qu'ils disent « Tiens, on peut peut-être utiliser ce jeu d'instruction. » C'est un jeu d'instruction qui a été développé par l'université de Berkeley pour des raisons de recherche, pour l'enseignement, des études. Et en fait, de plus en plus, les industriels se l'accaparent. C'est encore un peu jeune. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vrai ordinateur. Je crois qu'il y a un Raspberry Pi-like qui s'appelle... Star 64 yeah. Vous checkerez. Je dois l'avoir quelque part. Mais c'est un jeu d'instruction super intéressant. Il est pour l'instant utilisé surtout en système embarqué. Et peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones, quand je dis système embarqué, dans les objets connectés, etc. Peut-être qu'un jour, il sera dans nos téléphones, dans des ordinateurs. Je sais que la communauté Rust s'intéresse à RISC-V pour faire un Rust OS. Mais il y a des choses. Linux tombe déjà sur RISC-V. C'est un sujet RISC-V qui me passionne, on pourra en reparler, mais j'ai une chronique à faire.
Ouais. Comme dirait-il, l'odeur de cette discussion.
Ouais, non, mais ça sera coupé. Ça.
Tu connais cette nouvelle architecture de processeur?
J'avais tapé RISC-V dans Google et perdez 3 heures comme moi, voilà.
Je dis ça, mais en plus, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Oui, je fais de l'assembleur en ce moment.
PTDR.
Voilà, bon, bref.
Ok, on va revenir aux raisons de. Les raisons qu'on fait que Apple. Je vais réussir à faire cette phrase. Pourquoi Apple s'est lancé dans la fabrication de processeurs pour ses ordinateurs? Ce n'est pas un choix anodin, comme on l'a vu, c'est super dur de devoir faire. De fabriquer un processeur, et même en étant fabless, de base, Apple, il vend des produits au grand public, il ne vend pas des processeurs. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, je l'ai déjà dit, essayer de prendre son envol par rapport à Intel, qui devenait bloquant, même sur la supply chain, la logistique, c'était une dépendance trop forte, selon eux, pour garder cette dépendance vis-à-vis d'Intel. Deuxième choix, le fait que... et je vais retrouver ma note. Pardon. Deuxième choix, c'est pour la stratégie d'intégration verticale, comme on dit. Apple, ça, l'a toujours fait. Ils aiment bien contrôler tout le matériel, tout le logiciel, quasiment tout est Apple. Il y avait un composant dedans qui n'était pas Apple, qui était Intel. Bon, il y en a d'autres, hein, mais on va dire un composant phare. Et aujourd'hui, quasiment le hardware, le processeur, l'OS, les applications développées, tout ça est Apple. Et en fait, c'est vraiment la stratégie de pouvoir tout contrôler et du coup d'être plus efficient, plus efficace. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a une dernière stratégie. Et puis, j'ai vu des gens documenter un petit peu cette stratégie que je trouve très intéressante. C'est qu'en fait, ils prennent un contre-pied vis-à-vis de l'IA. C'est marrant parce que tu en as parlé dans ta chronique.
Oui, il n'y a pas d'IA. Tout le monde s'attend, honnêtement.
Apple.
Tout le monde est là en mode, mais quand est-ce qu'ils annoncent des trucs ?
Ils ne parlent jamais d'intelligence artificielle et de LLM, ou très très peu. Et quand ils en parlent, c'est pour des fonctions dans l'iPhone. Ils disent assisté ouais. par IA. Les suggestions sur votre iPhone, l'auto...
Mais rien que les photos.
Ouais.
Les photos. Mais ils en parlent très peu, alors que tous les actionnaires, y compris, je me souviens, pour l'Apple Vision Pro, lors de la keynote de l'Apple Vision Pro, s'attendaient à des annonces en termes de LLM, tellement c'était incontournable, en fait, pour un géant, pour un GAFAM, pour un géant de la tête, de ne faire aucune annonce.
Mais surtout, le plus curieux, c'est pas que ça les intéresse pas. Évidemment que ça les intéresse de fou. Et il n'y a qu'à voir leur contribution GitHub et ce qu'ils font, en fait, dans les coulisses pour savoir que non, mais en fait, ça les intéresse. Du coup, c'est encore plus étonnant que qu'ils n'en parlent pas, quoi.
Et en fait, ils en parlent, mais très certainement, même c'est sûr, ils en parlent à travers leur nouvelle puce M3. Et moi, ce qui me fait que c'est un point d'importance qu'ils aient présenté ça lors d'une keynote, sans doute pas le seul point, c'est le fait qu'en fait, dans ces puces, tout est intégré, c'est des systèmes on-chip. Il y a ce qu'ils appellent, eux, Neural Engine. Donc, c'est un processeur d'intelligence artificielle, un NPU, comme on l'appelle, Neural Processor Unit, qui est là pour assister dans les fonctions
de prédiction.
C'était déjà le cas sur l'iPhone. Ça va arriver sur le MacBook. Et en fait, le fait que Apple contrôle ses logiciels, son hardware et le silicium, ses processeurs, ça lui confère un avantage dans l'intelligence artificielle parce qu'au lieu qu'ils investissent à fond dans des immenses data centers avec des Nvidia H100, H1000, je ne sais plus, pour entraîner des gros LLM, en fait, ils vont amener l'IA on device, le machine learning on device, comme ils appellent, ils amènent l'IA au niveau de la machine et donc de ce qu'ils vendent. En fait, c'est logique pour eux. Et en fait, les traitements IA, eux, ils comptent sur ces processeurs-là pour les traiter. Plus le fait qu'il y a des gens qui ont essayé d'entraîner des LLM sur des grosses machines de travail avec des M2 Ultra, qui est leur version méga boostée, et que ça marche super bien. Et pourquoi ça marche super bien? Aussi parce qu'ils ont une mémoire unifiée. C'est-à-dire que dans leur système on-chip, ils ont tous leurs composants, le GPU, le NPU, le CPU, et ils ont une mémoire qui sert à tout. Et dans le M2 Ultra, je ne sais plus combien il y a de gigas de mémoire unifiée.
Ça monte à 190 à peu près gigas de mémoire unifiée.
Alors, ça n'empêche qu'ils ont sans doute des data centers pour entraîner des gros modèles à côté et qu'ils travaillent là-dessus.
Surtout, c'est de l'inférence.
Ouais, exactement.
C'était pas de le. Bah oui.
Aller jusque-là. Mais vas-y.
Bah si, parce que, en fait, entraîner un modèle où. Le faire parler, exactement, c'est pas la même chose.
Bien sûr.
Et pour l'instant, la question de l'entraînement de modèle est non résolue, en fait, sur les Apple Silicon.
Ouais.
Mais par contre, l'inférence, qui est le truc qui intéresse 99% des gens, en fait, c'est utiliser des modèles d'IA. Comme tu dis, sur les machines d'Apple, elles ont un avantage compétitif du fait de cette mémoire unifiée qui est absurde, en fait.
Ouais.
Parce que quand vous avez votre super PC gamer avec 64Go de RAM, mais qu'en fait, votre GPU, il a que 6Go de mémoire vive, vous faites tourner rien du tout. Et rien du tout. Alors que là, tu prends ton M3 Ultra, là, qui n'existe pas encore.
Ouais.
Tu penses que ça peut vite devenir, sauf s'ils augmentent trop les prix, mais ils peuvent vite se positionner comme des machines les plus efficientes énergétiquement qui peuvent faire tourner des modèles de type GPT-4 dans les prochains mois, prochaines années localement. Et ça c'est fou parce que c'est une guerre de paradigme, en fait. Comme d'un côté, on a parlé de OpenAI tout à l'heure, d'un côté t'as OpenAI qui est en mode non mais nous on y va à coup de GPU A100 de Nvidia chez nous et on maîtrise tout. Et de l'autre côté, il y a Apple.
Ouais.
Tu te dis, tu vas avoir ton Mac chez toi, en fait, et ton ChatGPT chez toi.
Et si on compare, par exemple, à la stratégie de Microsoft, qui ne contrôle pas tout, ils ont qu'un OS, pour gérer les requêtes, en fait, d'IA, en fait, ils sont obligés de passer par le cloud. Donc, c'est-à-dire d'avoir des immenses data centers avec de la puissance NPU, GPU, ou ce que vous voulez. Mais sans parler d'entraînement, juste d'inférence, ils peuvent pas compter sur pour l'instant en tout cas sur un calcul on device, donc sur le mobile. Ils sont obligés de passer par le cloud. C'est vraiment la stratégie inverse d'Apple, et je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu que Apple allait sans doute offrir un portage au moins partiel de Stable Diffusion sur les puces de la série M. Je pense pas que ce soit. Enfin, j'ai lu ça dans un papier d'analyste, mais apparemment, ils travaillent dessus. C'est une rumeur.
On le voit sur GitHub même. Si je dis pas
de conneries. Ouais, c'est possible.
Il y a des contributions d'Apple, ouais.
Et je trouve ça fou que mon Mac et peut-être même mon iPhone puisse avoir des capacités que Stable Diffusion en génération d'image et en traitement d'image.
En local.
Ça pourrait être.
T'as plus de latence, quoi.
Ouais, bah c'est clair.
Enfin, t'as la latence du calcul. Oui, c'est ça. Et tout ça.
Oui.
Mais t'as plus de
tu gagnes le trajet, t'as quand même le temps de calcul, mais.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que la mémoire unifiée nous fait un peu chier parce qu'il faut l'acheter super cher, mais c'est quand même un peu un avantage pour tout ça.
Et non, mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça a du sens parce que les ajouts sur la puce M3, en plus, c'est principalement au niveau du GPU. Qui est vachement sollicité quand vous essayez l'IAMA.cpp, voilà, ou tous les projets d'inférence en local, tu vois que c'est ça qui va avoir le plus d'impact, en fait, sur tes vitesses, sur le nombre de tokens par seconde que tu peux produire. C'est la nouvelle puce de l'IA.
Ce que j'ai vu, les deux trucs qui s'améliorent vraiment, il y a de l'amélioration partout, c'est, tu l'as dit, le GPU et le NPU par rapport au M2 et M1. Et pour moi, c'est pas anodin. Et en fait, je pense que même s'ils communiquent pas du tout, ils sont à fond, c'est même sûr, ils sont à fond sur le sujet pour avoir leur propre stratégie bien différente du reste. Et ça, c'est clairement permis grâce à tout le développement d'Apple Silicon qu'ils n'auraient jamais pu faire avec des puces Intel. jamais.
Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est clair, en fait, mais j'ai même, en fait, j'avais pas pensé. Non,
mais c'est, et surtout...
Y a, en fait, il y a un scénario où il restait stuck in tel. Parce que franchement, c'est un côté un peu courageux, tu vois. T'as un partenaire de 10 ans, ça fonctionne, tu vois. Il y avait des problèmes avec les puces, mais ça marchait bien. Mais en fait, avoir les guts de se dire, on fait l'investissement colossal de développer notre propre truc et que ça paye là maintenant, alors qu'ils n'auraient pas pu prédire tout ce qui allait se passer sur les LLM.
Ouais. Ouais. Et de ce que j'ai lu, il y a eu des grosses discussions en interne. Ils ont jugé ça comme méga risqué, le passage à Apple Silicon. T'avais un mec dédié à ça, au département, qui est devenu du coup aujourd'hui un mec super important d'Intel parce que c'est au cœur de leur stratégie. Et ils se posaient plein de questions. Il y a eu le Covid juste avant qu'ils dévoilent ça. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on reporte parce que les capacités de fabrication pendant le Covid étaient désastreuses. Et honnêtement, je pense qu'ils ont sué un peu. Voilà, je ne vais pas dire l'expression, mais ils ont sué du cul, voilà. Pour le changement, parce que c'est pas le business à la base d'Apple de faire ça. Aujourd'hui, ça nous paraît cohérent. Et moi, je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai acheté mon Mac juste avant qu'il passe au Apple Silicon. Je savais qu'ils allaient lancer des processeurs. J'avais pas méga confiance. Je me suis dit, il va être moins bien. Les premières versions vont être moins bien.
Ouais, bah, ça aurait été logique.
Et en fait, ouais. Non. Mais du coup, je suis un peu le seum. Mais j'ai un vieux Intel. Mais non, c'était un. J'ai lu des papiers qui racontent un peu les coulisses de ce passage-là. Fallait un peu des balls pour se lancer dans les Apple Silicon. Et aujourd'hui, ça, c'est sans doute leur principale stratégie de développement.
Leur principal atout. Et on a hâte de voir ce que donnera M3 Ultra sur ouais. Bench avec 200 gigas de mémoire.
Juste de voir parce qu'on ne pourra pas l'acheter. Mais...
Voilà. Non, clairement, on ne l'achètera pas, mais on lui dira coucou, comme ça, de loin.
Et tapez RISC-V sur Google, dites-moi de faire une chronique dessus, avec grand plaisir.
Ok, alors, pour les élus, on va faire comment, là?
C'est la fin de cette chronique. Oui, mais alors mes notes.
Je crois qu'on a perdu Micode et Mathieu et Tiffany en AVC. Bah non, mais il faut dire.
Est-ce que c'était trop barbu le chat? Ça m'intéresse un peu parce que c'est vrai que j'ai fait des tests aujourd'hui.
Je pense que t'as rattrapé les gens à la fin. Il y a eu un petit passage à vide.
C'est parce que tu m'as posé des questions.
C'est là où tu sens que la passion est plus forte.
Ouais, on n'avait pas résisté en fait.
Mathieu.
Ouais. Bon, si vous voulez, je vous refais un point sur TSMC. Hein, mais TSMC qui, du coup, grâce à Apple, je peux pas m'en empêcher, est passé premier fabricant de semi-conducteurs, alors qu'avant, ça avait toujours été Samsung et Intel. Pas que grâce à Apple, mais aussi parce des très bons choix qu'ils ont fait, honnêtement. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui, ils soient premiers. Ils ont des puces partout. Il y a de très grandes chances que vous ayez une puce fabriquée par TSMC.
Et même moi, je pensais pas qu'il y en avait autant que 80%, c'est quand même.
Ça, c'est ASML.
Ok.
C'est les machines que il a 80% du marché. Non, okay. Non, ils ont pas ça. Ok. Je sais plus combien de pourcents ils ont.
Ça marche.
Peut-être 30%, mais c'est déjà énorme.
Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne parce qu'il est déjà tard avec nos invités. On va faire une petite pause de 5 minutes. Ne bougez pas. Si vous n'étiez pas là à l'intro quand j'ai annoncé le programme, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui des gens qui construisent des ordinateurs quantiques. Voilà. Il y en a 12 en France. Ah non, peut-être plus quand même.
On leur posera la question.
Ouais, on leur posera la question. Peut-être qu'ils font ils ont un meeting, une soirée.
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup.
Ils
sont 8. Ouais, je pense. Ils mettent leurs 8 ordinateurs là, comme ça.
Non, en vrai, c'est fou.
Ils font une LAN de Edge of.
Ils nous ont même ramené un petit objet que j'ai vu de loin, je me suis pas spoilé. Mais vous allez voir, ça va rentrer ici. Et on fait des gros bisous à Mathieu et Tiffany.
Yes, des bisous à tous.
Qui nous quittent pour ce soir, mais qui reviendront. Dans les prochaines émissions, évidemment. Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Je suis avec mes invités. Comment vous allez?
Super bien. Super
très content, très content de vous avoir, comme on l'a dit. Vous nous avez peut-être entendu tout à l'heure. Mais ça fait. On était très, très hypés, en fait, de votre venue. C'est pas tous les jours qu'on a des invités. Encore moins des gens qui bossent dans le quantique. Donc c'est trop stylé. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer dans vos chaises, de prendre ce que vous voulez. Les micros, c'est des micros de podcast, donc faut bien les manger dedans. Donc tu vois,
D'accord.
Tu peux le prendre et le ramener vraiment à 2 cm. Voilà, en dessous, comme ça, ça captera bien tout ça. C'est la première fois que vous faites du Twitch ?
Bah ouais, ouais.
Moi aussi.
Il y a un influenceur quand même entre vous deux. Il faut qu'on, voilà, faut qu'on crève l'abcès, faut qu'on le dise dès maintenant. J'ai l'honneur de recevoir un. T'es sur TikTok, YouTube principalement.
Ouais, TikTok, YouTube, un peu Insta. Enfin, je republie les TikTok sur Short et bon, maintenant tout le monde a créé son truc, mais.
Je vous invite vraiment à aller voir Premier Degré parce que si vous voulez avoir un peu de vulgarisation en format court, bah il y a pas de 12 000 gens qui font ça et qui sont en plus légitimes à le faire. Donc allez voir ça. T'as lancé ça il y a longtemps ?
Ouais, ça fait 2 ans et non, c'est cool, ça marche bien. Je suis content. Là, donc c'est des petites capsules de 1 minute, quoi. On peut pas trop rentrer dans les détails, mais c'est
oui, tu nous disais que là, 30 minutes, ce serait un peu chaud pour parler de quantique, mais en 1 minute, ça doit être encore plus galère.
Ouais, bah du coup, faut simplifier, quoi. Mais du coup, il y a un challenge de résumer en 1 minute un concept, quoi.
Très stylé. Et ils sont au courant chez Alice et Bob, qui est bien sûr le nom de la boîte.
Ah oui, ils sont tous au courant.
C'est mes premiers fans.
Non, mais c'est une vraie question parce que c'est même pas un projet de la boîte directement.
Non, pas du tout, ouais.
Tu t'es lancé là-dedans et.
Puis on m'a découvert. Ouais.
Et du coup, ça te donne quand même accès, j'imagine, à du matos et des...
Ah bah pour les TikTok, c'est trop cool. Quoi.
Ah ouais, là, c'est
royal. Je vais dans la pièce d'à côté, j'ai les frigos.
Les images du cryostat.
J'ai les ordi quantiques juste à côté. C'est parfait. Ouais.
Dans la salle des ordi quantiques, j'imagine, je ne sais pas, on va en parler. À quoi ressemble
on aura des images.
Dans le premier degré, je pense que c'est la première question qu'en fait que je suis en train de me poser. C'est à quoi peut bien ressembler une salle info quantique ?
Alors, si tu avais été dedans, tu te poserais. Enfin, ce que tu retiendrais surtout, c'est le bruit que ça fait.
Okay. Mais on en reparlera. C'est comme une salle saveur un peu.
Un peu différent.
Ok.
Un peu différent. Mais tu ressors. Ton oreille, en fait, a appris à le filtrer quand t'as passé 4 heures dedans d'affilée. Et du coup, t'as l'impression que le monde extérieur.
Tu ressors et tout est silencieux.
Exactement.
On pense aux doctorants qui sont restés 3 ans dans ces salles. Ils sont hantés par le bruit.
Et donc. Toi, c'est la première fois que tu es en live avec nous.
Tout à fait.
Est-ce que, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, où est-ce qu'on peut... je sais qu'à chaque fois qu'on a ce genre de discussion, c'est frustrant pour les gens qui veulent aller plus loin. Mm-hmm. Donc déjà, d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a des publications, par exemple, de tous les, qui permettent de pousser un peu les sujets dont on va parler ? Qu'est-ce que vous conseillerez comme ressource un peu ?
Alors, comme ressource d'entrée... Peut-être que tu as une idée.
Être embauché chez Alice et Bob.
Ouais, se lancer dans la lecture d'un article scientifique, c'est vraiment dur.
C'est ardu, quoi. C'est aride.
Et même nous, tu vois, dès qu'on sort un peu de notre sujet, vraiment, c'est hyper dur de lire un article scientifique. Donc, c'est peut-être pas le premier truc. Ouais.
Bah non, mais moi, je crois que le meilleur format pour ça, c'est plutôt de la discussion, à mon avis. Ouais. Quelque chose qui serait genre en vidéo, par exemple, où on aurait genre des élus. Et visuel.
Est-ce qu'on va faire de notre mieux?
On verra cette vidéo.
Je pense que tu peux baisser un tout petit peu ton micro parce qu'on va te cacher. Faut que tu peux le mettre pour que ça vise ton menton, tu vois. Excellent. Je fais ma petite intro et on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'informatique quantique sans peut-être trop comprendre concrètement, en fait, ce qui se cache derrière. On en avait déjà parlé avec Vivien de Microsoft à l'époque. Et ces nouvelles capacités de calcul informatique pourraient changer pas mal de domaines de la vie. Par exemple, créer des nouveaux matériaux pour les batteries, fabriquer des nouveaux médicaments encore inconnus, peut-être casser les méthodes de chiffrement actuelles, qui sait. Aujourd'hui, l'objectif, en fait, c'est de comprendre une fois pour toutes pourquoi c'est si difficile de faire ces ordinateurs quantiques, pourquoi ça fait des années qu'on en parle et que, entre guillemets, ça n'arrive pas. Sauf à grand coup de marketing où on dit qu'on y a réussi, mais en fait quand on regarde de plus près ce qu'annoncent les GAFAM, etc., c'est pas forcément non plus si foufou. On a la chance pour ça de recevoir deux experts du domaine qui nous viennent de l'entreprise Alice et Bob. Ils vous le diront pas vous-même, mais Alice et Bob, c'est une petite boîte avec peu de gens qui fait légitimement concurrence avec les plus gros acteurs du marché en ce moment sur la création d'un ordinateur quantique. Vous pouvez imaginer que c'est une course. Et on a la chance en France d'avoir au moins une structure qui mène ce combat avec la rage de vaincre et qui potentiellement en 4 ans, ça vous allez me le dire, c'est vous qui allez me le confirmer, mais potentiellement en 4 ans pourrait faire ce que Google n'a pas réussi en 15. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans la discussion. On va parler de dérouler un petit peu tous les sujets, détailler ce que vous faites. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas?
Donc j'y vais. Voilà, bonjour à tous. Donc je m'appelle Diego. Donc comme tu as dit, je travaille chez Alice et Bob. Donc je suis en thèse, deuxième année de thèse, et sur l'informatique quantique. Et c'est trop cool de travailler dans ce domaine.
Et moi, je m'appelle Ulysse. Je suis également en thèse, en troisième année. Je rédige mon manuscrit et je suis arrivé au tout début d'Alice et Bob. Chronologiquement, je suis le premier employé d'ailleurs.
Et donc en quelle année?
En 2020. Si je ne dis pas de bêtises.
2020, donc c'est tout récent. C'est déjà, c'est fou en fait.
La boîte a un peu plus de 3 ans.
Ok.
Et on est 4 heures maintenant quand même, donc c'est. Donc on est une grosse start-up maintenant.
Ouais, c'est-à-dire
que très vite, hein, ça fait très bizarre. Hein.
80 employés en 4 ans. Oui, c'est plutôt une bonne. J'imagine que les moitiés, c'est l'année dernière. Alors, c'est souvent comme ça en général.
C'est à peu près ça. Ouais. Ouais.
Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert un ordinateur quantique? Quel est le but de travailler dans ce domaine?
Ouais, donc le but d'un ordinateur quantique, c'est de faire certains calculs qui prendraient énormément de temps sur des ordinateurs classiques. Donc ça c'est vraiment le terme qu'on utilise, ordinateur classique, c'est tout ce qu'on a, nos smartphones, nos tablettes, les centres de calcul. On appelle ça des ordinateurs classiques. Et donc le but, c'est pas tu vois, de faire des calculs deux fois plus rapidement qu'un ordinateur classique, parce que bon, on le verra, mais c'est hyper compliqué de construire un ordi quantique. Donc le but, c'est pas que ça prenne 30 secondes au lieu d'une minute. Tu vois. Le but, c'est vraiment de faire certains calculs en quelques heures ou quelques jours qui prendraient éventuellement des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années ou même des milliards d'années. Tu vois. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de ramener certains calculs qui sont complètement intractables aujourd'hui dans la sphère des calculs possibles. C'est vraiment ça le but.
Par exemple.
Donc on a, donc c'est un peu ce que tu disais en intro, la personne qui a imaginé la première les ordinateurs quantiques, c'est Richard Feynman, donc très très grand physicien du XXe siècle, qui avait dit, alors c'est une citation un peu inexacte, mais si vous voulez simuler la physique quantique, utilisez pas un ordinateur classique, utilisez un ordinateur quantique, puisqu'il sera fait pour ça. En fait, l'idée, elle a un peu émergé du fait qu'effectivement, ouais, simuler la physique quantique, c'est hyper compliqué. Tu vois, genre, si tu veux simuler une molécule, grosso modo, à chaque fois que tu rajoutes un atome à cette molécule, tu vas doubler le temps de simulation par deux. Et donc, c'est exponentiel et très vite, tu peux plus du tout calculer les propriétés de ta molécule. Par contre, un ordinateur quantique, lui, il est câblé pour ça. Il pourra faire... Donc, le premier, je pense, ce qui sera la plus grosse application de l'ordinateur quantique, c'est vraiment simuler la physique quantique. Alors dit comme ça, ça a peut-être l'air de rien. On peut se dire
bon, pas gros nerd. À quel point c'est important en fait.
Voilà, c'est on peut se dire que c'est un délire de physicien.
Ouais, ouais, mais c'est pas
mais,
un truc de.
En fait, bon, tout est quantique en vrai. Mais par exemple, tu vois les propriétés d'un matériau, c'est souvent des propriétés émergentes de la physique quantique. Et donc pour prédire les propriétés que va avoir un matériau, en fait, c'est des simulations de physique quantique. Et pareil, on avait parlé alors c'est il y a quelques années du repliement des protéines quand Google avait réussi. Avec AlphaFold, c'était ça, ouais.
Oui, c'est ça.
À prédire le repliement des protéines. Ça aussi, c'est un problème qui est en fait un problème de physique quantique qui est hyper compliqué à simuler. C'est pour ça qu'on a essayé par IA. Et typiquement, là, un ordinateur quantique pourrait très bien savoir comment une protéine se replie. Et donc, et comme c'est le repliement, donc un peu comme un origami qui détermine ses propriétés, à quelle molécule elle va s'accrocher, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais... Ouais. En tout cas, ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens qui font de la bio et c'est typiquement un truc qu'on pourrait faire sur un ordinateur quantique.
Et on parlait de la médecine. Est-ce que là aussi, il y a des perspectives du coup, très concrètes de trouver des médicaments? Bah, c'est un peu le même sujet, j'imagine.
Ouais, après, on ne peut pas dire précisément voilà, si on a un ordinateur quantique, on pourra faire cette simulation et trouver le remède contre le cancer. Tu vois, on n'est pas en train de dire ça. Mais on dit qu'il y a beaucoup de chemin. C'est des trucs qui sont envisageables. Quoi.
Parce que aujourd'hui, pour faire déterminer la structure d'une protéine, soit AlphaFold te donne la réponse, et dans ce cas, tu es content, soit tu dois faire de la cristallographie à rayon X, et c'est tout de suite des semaines de mesures. Si tu avais un simulateur quantique pour replier la protéine en quelques minutes de calcul, ça te permettrait, on imagine, que l'industrie pharmaceutique puisse itérer bien plus vite pour trouver des protéines intéressantes.
Oui, donc c'est vrai, c'est pas juste une optimisation, on est sur
un changement de paradigme.
Changement complet. Ok, donc déjà c'est un peu plus concret. Maintenant, la question d'après, c'est ça a l'air génial, on a l'air de pouvoir faire plein de trucs cool. Comment on fabrique un ordinateur quantique? On commence par quoi?
Du coup, j'y vais.
Vas-y, lance-toi.
Fort bien. Alors, en réalité, il n'y a pas qu'une seule stratégie aujourd'hui pour essayer de fabriquer cette machine. il n'est pas clair quelle va être la stratégie qui va gagner à la fin la course à l'ordinateur quantique. Je pourrais citer les ions piégés, les atomes froids, photonique, merci beaucoup. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on est sur une techno qui est probablement l'une des plus représentées aujourd'hui dans la course à l'ordinateur quantique, qui s'appelle les circuits supraconducteurs. Tout à l'heure, il passait des images du labo, des cryostats peut-être qui peuvent en repasser à la régie. Les circuits supraconducteurs, c'est une plateforme sur laquelle on va venir essayer de stocker de l'information en exploitant les propriétés de la matière. Et pour faire ça, on a besoin d'énormément refroidir. Quand tu utilises cette technologie, tu as besoin de travailler avec des énergies qui sont bien en dessous des énergies qui casseraient la supraconductivité de tes matériaux. Donc là, on voit un cryostat, donc c'est l'intérieur des frigos, on les appelle comme ça au laboratoire, dans lesquels on met nos puces, tu vois, on les met tout en bas. Là, on est en train de voir quelqu'un en train d'assembler les puces. Et il faut bien voir que là, donc, tout est doré. C'est du cuivre, tout est en cuivre, recouvert d'or pour faire d'excellents contacts thermiques. Et ces cryostats, ensuite, on les referme une fois qu'on a mis nos expériences. On met plein de couches en poupée russe pour nous isoler au maximum de l'environnement électromagnétique environnant, parce qu'on va travailler à des fréquences typiquement de l'ordre de la dizaine de gigahertz. Donc en fait, c'est exactement la fréquence des télécoms. Donc si t'es mal isolé, tu vas capter le Wi-Fi sur tes types. Enfin, j'exagère, mais Raphaël...
Je peux vraiment capter le Wi-Fi.
Ah oui, non, mais c'est vrai. Sûr. Ouais. C'est sûr. C'est du 5,5 GHz, typiquement. Donc, voilà. Donc, il faut bien t'isoler. Et une fois que tu as fait ça, tu fais un très bon vide et tu vas venir refroidir ton échantillon. Et les températures à laquelle on travaille, c'est typiquement 10 millikelvin. Donc, 10 millikelvin, tu vois, c'est 10 millikelvin au-dessus de moins 273,15 degrés Celsius. C'est le zéro absolu.
En gros, c'est moins 273,14 degrés.
Exactement.
Et il n'y a pas une histoire comme quoi c'est plus froid que dans l'espace, non?
Ouais. l'espace, si tu veux lui donner une température critique, c'est celle, typique, c'est celle du fond cosmologique diffus. C'est un bon point de référence. Et il est à genre, on a rediscuté, 3 degrés Kelvin. Donc voilà, c'est.
Donc, ouais, il est à moins 270 et nous, on est en dessous.
C'est
parce que dans l'espace, en fait, c'est vraiment ces boucliers qui nous permettent, nous, de bloquer ce rayonnement.
Exactement.
Tout l'univers est plongé dans ce rayonnement qui a été émis après le Big Bang. Et nous, avec les boucliers, en fait, on bloque, donc on peut descendre plus bas, quoi.
Tout à fait.
Plus froid que l'univers.
Plus froid que... C'est une bonne façon de le dire, c'est pas faux. Et voilà, et donc ces circuits supraconducteurs, typiquement, t'en as sur la table, en fait. Ils ressemblent à ça, je sais pas si on peut
les... Mais si, prenons-les, montrons-les. On m'a dit, on a amené des ordinateurs quantiques.
Alors,
et ouais, j'ai vu des tout petits trucs qui payent pas de mine.
Bon, je sais pas si on y voit très bien à la régie, mais donc là, ce que je tiens, c'est une boîte. Donc c'est typiquement ce genre de boîte qu'on met au fond du cryostat.
Tu peux la monter un peu, ouais, regarde. Si t'as le retour ici.
Voilà. Pardon, j'ai un coup de micro. Et donc si j'ouvre la boîte, on va voir à l'intérieur un petit circuit qui est lithographié. Donc là, je sais pas si c'est du silicium ou du saphir. Et ce qu'on lithographie, c'est typiquement du niobium ou de l'aluminium, qui sont en fait des métaux tout à fait usuels. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la plupart des métaux usuels sont supraconducteurs. Il faut juste les refroidir suffisamment.
Ah oui, d'accord.
Donc, évidemment...
Mon CPU n'est pas à 0 degré Kelvin.
Donc, il n'est pas supraconducteur, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu vois, sur cette puce, on a plein de petites entrées-sorties qui nous permettent de greffer des lignes coaxiales pour envoyer et recevoir des signaux micro-ondes qu'on va venir contrôler avec une électronique à température ambiante. Par des lignes de descente, on les voyait tout à l'heure, on va pouvoir acheminer ces micro-ondes par des chemins qu'on a bien choisis et qu'on a bien isolés pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui rentre dedans. Et nos signaux, on va les récupérer et les analyser avec typiquement l'électronique utilisée dans les télécoms. Et c'est un truc qui est chouette, c'est que pour travailler avec les circuits supra, tu dois travailler à quelque chose comme 5 GHz. Et la plupart des télécoms aujourd'hui sont optimisés pour travailler dans ce régime de fréquence. Donc en fait, pour un prix raisonnable, tu peux avoir une électronique d'extrêmement bonne qualité. Et ça fait partie des nombreuses raisons qui font que cette technologie émerge beaucoup, parce que dans les concurrents, si tu veux faire, mettons, des ions piégés, il te faut c'est tout de suite des expériences d'optique, en fait,
okay,
avec des tables où tu as des lasers dans tous les sens et tu fais des optical tweezers pour manipuler tes atomes. Enfin, tu as des thésards qui perdent 3 ans de leur vie à calibrer des lasers pour...
que ça marche juste pour pouvoir commencer,
en fait, l'arc, pour commencer à faire l'expérience, et des manips qui ont des temps très longs. Les circuits supra, tu peux itérer très vite. C'est un vrai avantage.
Et alors, est-ce que ça, Du coup, on peut appeler ça un ordinateur quantique ?
Peut-être. Alors, non, c'est un peu ambitieux celui-là, il est un peu petit.
C'est un prototype. Mais du coup, tu vois, le petit carré argenté que Ulysse montrait, c'est vraiment ça le processeur, quoi. Donc c'est 1 cm par 1 cm. Et du coup, dans ce processeur, il y a les fameux qubits, donc pour quantum bit en anglais, qui sont l'équivalent, donc dans un ordinateur, si on zoom, c'est des 0 et des 1, vous en parliez tout à l'heure. En informatique quantique, on utilise donc des qubits, donc c'est ça qui retiennent l'information quantique. Et ils peuvent être dans 0, dans 1 ou dans une superposition des deux. Donc c'est là qu'on va peut-être commencer à parler de physique quantique.
À perdre des gens.
Donc en gros, ils peuvent être un peu non, en même temps aller. Dans 0 et dans 1, pour le dire simplement. Et donc l'intérêt, c'est que si t'as, donc j'avais préparé une petite animation si la régie la retrouve, mais si t'as plusieurs qubits, tu vois par exemple si t'as 3 qubits, en fait, tu pourras les mettre dans la superposition des 2 puissance 3 états possibles. Tu vois, tu pourras avoir en même temps 000, 001 jusqu'à 111, tu vois.
Okay.
Et tu peux créer, et tu vois, si t'as... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc là, si t'as 3 qubits, tu peux créer une superposition. Donc c'est ce qu'on voit entre les petits crochets. Donc les
petits c'est la notation pour dire que c'est...
Ça veut dire
c'est
quantique. C'est quantique.
D'accord. C'est quantique.
Tu vois, tu mets t'as des 0, des 1, c'est normal.
Okay. Tu mets des crochets.
Tu mets des crochets, c'est quantique.
Là, ça marche plus sur mon ordinateur.
Et donc, tu vois, et l'intérêt, c'est si t'as n qubits, du coup, tu peux faire une superposition de 2 puissance n états. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, tu vas faire une opération sur ton ordinateur quantique. Donc, c'est vraiment des trucs, je sais pas, une porte OU, une porte E. Enfin, c'est vraiment l'équivalent...
tu vois, les processeurs normaux, ouais.
Ouais, les briques de base, elles vont s'appliquer en même temps sur toute ta superposition. Okay. Tu vois. Donc c'est pour ça que les gens résument parfois en disant que tu as une espèce de parallélisation inhérente à la physique quantique qui fait que tu peux calculer sur tous les états en même temps. Alors il y a quand même une petite subtilité à ça, c'est que en sortie de ton ordinateur quantique, tu vas mesurer qu'un seul résultat. Tu vois. Ouais. Donc tu auras une bit string de 0 et de 1 et tu n'auras pas une superposition géante.
Ouais.
Donc en fait, tout le jeu d'un algorithme quantique, c'est d'arriver à exploiter au milieu de l'algorithme, tu vois, cette superposition, sachant qu'à la fin, tu veux quand même que ton truc converge vers la bonne réponse.
Ok.
Mais tu vois, c'est en exploitant la parallélisation au milieu.
Ouais. Que non mais c'est hyper raison. Je pense, est-ce qu'on peut pas faire un parallèle en disant que on pourrait dire que si un processeur normal, par exemple, c'est un petit ruisseau, on va dire qu'il y a une certaine largeur normale, et ben un processeur quantique, il permet de en entrée, t'as toujours le même petit ruisseau. Au milieu, ça peut devenir un énorme torrent, en fait, qui peut processer, entre guillemets, beaucoup plus d'informations. Et en sortie, ça redevient un tout petit ruisseau. Et tout le jeu, c'est de trouver comment faire comment profiter de cette puissance au milieu de l'algorithme, tout en n'ayant qu'un input et un output limité, comme d'habitude. Est-ce que c'est un parallèle que tu validerais?
C'est plutôt une image pas trop mauvaise, ouais. Hein.
Peut-être ouais. Je te la volerais. J'irais plus, ouais, où c'est plein de petits ruisseaux ouais. Au milieu, tu vois. C'est-à-dire au milieu de l'algorithme, si t'as 100 qubits, tu vois, t'as un peu 2 puissance 100 ruisseaux, et si t'arrives à bien les manipuler, t'auras l'info que tu veux quand à la fin ça reconverge vers un ruisseau.
Si tu veux partir dans les images un peu plus ouais. Mindfuck, peut-être qu'un truc qui serait pas complètement déconnant, c'est de dire que ton ruisseau, c'est une onde qui se propage. Hein. Tu as un torrent d'ondes, ouais. Et à la fin, tu veux les faire interférer. De telle façon que tu aies un gros pic à l'endroit de la solution de ton problème, okay. Qui est intéressante.
Okay.
Et en fait, en disant ça, tu te rends compte que tu peux pas faire n'importe quoi, parce que manipuler des trucs qui ont des phases, c'est beaucoup plus contraint que de juste explorer toutes les branches d'un labyrinthe en même temps.
Effectivement, je pense que pour avoir l'analogie, il faut en fait peut-être du traitement du signal ou des trucs comme ça.
Ouais, ouais.
Mais peut-être, techniquement, le son est une... On peut faire le parallèle avec du son qui est une onde comme une autre. Faudrait faire en sorte que tu veux que ton algorithme donne la bonne note sans qu'il y ait d'interférence entre guillemets entre toutes les autres qui ont été mises. Je sais pas.
Ça part un peu loin là.
Ça part un peu loin. Peut-être qu'on exagère. Faut faire très attention aux analogies parce qu'après on se fait taper sur les doigts.
Tu vois, c'est vraiment pour ça que on peut pas juste prendre un algorithme classique, le passer dans la moulinette et avoir un algorithme quantique qui marche 10 000 fois plus vite, tu vois. C'est justement parce que c'est ce jeu complexe d'interférences donc c'est vraiment c'est des chercheurs qui trouvent des algorithmes quantiques ouais. Et on n'en trouve pas un toutes les deux semaines, tu vois.
Bah c'est ça, c'est que ce que je trouve fascinant, c'est que là on va justement parler un peu de ce qui est difficile et pourquoi peut-être là cette fois-ci ça pourrait marcher et pas trop les fois d'avant. Mais juste avant, en fait ce qui me fascine, c'est que les algos, on les a depuis bien plus longtemps. que la,
hardware.
Que le hardware pour les faire tourner. Et je trouve que c'est, quand on le sait pas, ça mindfuck. C'est-à-dire que c'est, on sait déjà quelle, précisément, quelle ligne de code, entre guillemets, on va pouvoir exécuter sur ces processeurs le jour où ils vont arriver, mais ils ne sont pas là. C'est ouais, fou.
Je crois que c'est, en fait, le premier algo quantique qui a été trouvé, c'est 1994, donc c'est Peter Shor. Et justement, l'algorithme pour casser RSA. Du coup, bon, j'ai pas besoin d'expliquer.
Ensuite, les gens lui ont dit, ça marchera jamais.
Donc, alors, juste pour expliquer, RSA qui est derrière tous les algorithmes de chiffrement symétrique. Donc, globalement, ce qui fait toute la confiance hein, sur Internet, vos paiements sécurisés, tout ça, imaginez que tout ça est basé sur RSA derrière. Et cet algorithme de Shor, c'est ça ?
Ouais. Ouais.
Permettrait de casser avec un ordinateur quantique n'importe quel chiffrement de, d'une taille. Parce que c'est ça la différence. À l'heure actuelle, on sait casser des, du chiffrement qui est sur, avec des clés trop petites.
Et ça te prend un temps exponentiel avec la taille de la clé. Avec un ordinateur quantique, tu peux imaginer faire ça en temps polynomial.
Et donc, ça, en gros, ça veut dire que c'est pas juste faire des clés plus grosses, ou 10 fois plus grosses, ou 100 fois plus grosses.
Parce qu'il faut changer de méthode.
Il faut changer la méthode, quoi.
Alors, bon, c'est pas l'application qui vend le plus du rêve, parce que t'as juste l'impression que
ça fait peur.
On va juste devoir changer tous nos systèmes de sécurité. Ouais. Génial. Alors, en pratique, il y a du coup des systèmes de chiffrement post-quantique qui existent déjà. Je sais, aux États-Unis, ils sont sur le coup, en tout cas en France aussi, pour justement, quand il y aura des ordinateurs quantiques, ne pas que n'importe qui puisse pas déchiffrer les messages. Et donc, c'est pas, tu vois,
pas c'est panique. C'est pas
au final, ça va aller. Ouais. Et l'ordinateur quantique servira. Enfin, c'est pas le but, quoi.
Ce que je vous propose maintenant qu'on a eu un petit peu un visuel de ce qu'il y a tout au cœur de la machine, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est dur, en fait. Pourquoi, toujours maintenant, on n'a pas beaucoup de résultats concluants. Pourquoi c'est... Alors que pourtant, j'imagine qu'il doit y avoir des milliards investis. Enfin, ça doit être une course entre
c'est
des...
C'est une titans. Énorme bulle financière, ouais.
est-ce que vous pouvez expliquer, justement, pourquoi c'est, en fait, pourquoi c'est dur et qu'est-ce qui a été imaginé de votre côté pour... j'imagine qu'il y a plein de secrets de fabrication, mais pour donner une idée générale, qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, pour surmonter ces difficultés-là ?
Alors, déjà, pourquoi ça ne marche pas ? En fait, la raison profonde, c'est que la physique quantique, c'est très fragile. Tu vois, on disait, par exemple, on refroidit à des températures très, très froides, mais dans votre ordinateur que vous avez chez vous, par exemple, s'il monte de 20 degrés, ça ne va rien changer. Tu vois, le truc marche toujours, c'est hyper robuste, en fait. Un ordinateur quantique, si ça monte de 1 degré, tout est cassé, tu vois. Et donc, et typiquement, quand si la température des frigos monte trop, on voit que les performances des qubits se dégradent. Tu vois. Donc c'est comme la physique quantique, c'est hyper fragile.
Mais c'est encore plus froid que l'espace à ce moment-là.
C'est toujours plus froid que l'espace, mais on a quand même vu la dégradation.
Ouais.
Et donc on est hyper sensible à toutes les conditions extérieures. C'est pour ça qu'il y a c'est hyper protégé, il y a plein de boucliers, etc. Mais à la fin, ça fait que dans qu'en fait, le temps de vie de l'information dans un ordinateur quantique, aujourd'hui, en tout cas dans les supraconducteurs, c'est, disons, entre la microseconde et la milliseconde. Donc concrètement, tu vois, par exemple, si je fais, je sais pas, t'enregistres, tu sauvegardes un film sur ton disque dur, t'espères que quand tu reviens deux jours après, les 0 et les 1 qui composent le film sont toujours là, et les 0 ne sont pas changés en 1 et les 1 ne sont pas changés en 0. Et dans un ordinateur quantique, aujourd'hui, toutes les une centaine de microsecondes, un 0 se transforme en 1 ou un 1 en 0 sans que tu le veuilles. Donc tu vois, tu peux pas faire des calculs avec ça.
T'es en train de regarder ton film et là, pff, tout explose, tout crash, Iron Man disparaît.
Tu as du bruit blanc. Donc ouais. Et c'est pour ça que vraiment, quand Shor il a sorti son algorithme, je crois qu'il a raconté qu'un an après, il y a un papier qui est sorti qui a dit, mais en fait, ce sera impossible parce qu'on n'arrivera jamais à construire des systèmes assez robustes. Tu vois, le temps d'exécution, tu vois, pour faire l'algorithme de Shor, je sais pas, il faudra un truc qui survive, je sais pas, au moins une heure ou un truc comme ça, tu vois. Faire tourner un truc pendant une heure, donc il faut que ton information sur des milliers de qubits, pas juste un.
Sur les ordinateurs d'Alice et Bob, on prévoit de le faire tourner en combien d'heures ?
C'est 8 heures. C'est les benchmarks qu'on a fait. Il faudrait, tu vois, il faut que l'information vive pendant 8 heures.
Ok.
Et
avec le nombre de qubits que.
Beaucoup de qubits. Okay. Et donc, les gens pensaient que c'était impossible, quoi. Ils se sont dit, bon, on n'y arrivera jamais. Puis, en fait, c'est Shor qui a à nouveau inventé qui est vraiment hyper fort, je suis admiratif, qui a inventé ce qu'on appelle la correction d'erreur quantique. Donc, l'idée de base, enfin, les reprises de la correction d'erreur classique, c'est un truc qui existait déjà pour en fait, le développement des premiers... Alors, je crois que c'était pour les télécommunications. C'était Hamming, donc un physicien informaticien des années 40-50, qu'on avait marre que quand il envoyait ses signaux, ses zéros se transformaient en 1, et donc il a inventé la correction d'erreur. Donc le premier truc que tu peux t'imaginer, c'est que voilà, si mon 0 ou mon 1 il est trop fragile, bah, je vais juste répéter l'information. Tu vois, je vais juste dire, mais en fait, mon 0 c'est 3 0 et mon 1 c'est 3 1. Et du coup, si j'ai un 0 qui se transforme en 1, tu vois que j'ai encore 2 0 qui retiennent mon information. Et donc je peux faire un vote de majorité, dire bah, le 1 il est tout seul, il est louche, par contre j'ai encore 2 0. À mon avis, c'était 0 0 0 et hop, le 0 je retransforme en 1. Et après, tu vois, dans ton algorithme, ça voudrait dire que tu auras une étape où tu vas faire les opérations, une étape où tu vas corriger les erreurs, une étape où tu vas faire les opérations. Donc, tu vois, t'auras, en fait, à la fin, la machine que tu as, elle corrige autant les erreurs qu'elle fait des calculs.
Ouais, ouais.
Les deux seront l'un après l'autre.
Autant d'énergie à corriger les bugs intempestifs qu'à calculer des trucs, quoi.
Ouais, bah en fait, à la fin, parce que c'est ce qui était sur l'animation, c'est que, tu vois, si tu as 3 0, mais que tu as 2 0 qui se transforment en 1, bah là, ça marche plus, tu vois. Même ton vote de majorité,
ouais, bah oui,
il va inverser le 0, le dernier qui restait qui était bon, il va le mettre en 1, et tu t'auras ajouté une erreur avec ta correction. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le seuil de la correction d'erreur. Donc c'est hyper important, c'est le fait qu'en fait, ta correction d'erreur, elle marche, mais si de base, tes qubits, ils sont assez bons. Si de toute façon, par rapport à la fréquence à laquelle tu peux faire ta correction, si de toute façon il y a 10 erreurs entre chaque étape de correction, ça ne marchera pas. Tu vois. Et donc.
En fait, je veux dire que c'est hyper important parce que je pense qu'on peut se dire ok, alors il me parle de ce truc de correction d'erreur. En fait, si vous voulez un parallèle de c'est quoi de la correction d'erreur, c'est un QR code. Si vous avez déjà vu un QR code et que vous scratchez un petit bout et que vous réessayez de le flasher, ça marchera toujours en fait. Parce qu'il y a une redondance d'informations qui fait que même s'il y a un petit bout n'est pas là, bah, tout va bien.
Et voilà, pareil, dans les CD, si tu rayes un CD, comme il y a de la correction d'erreur, c'est pareil.
Ça devrait
tu vas avoir le film intact quand même.
Mais là, en fait, c'est vraiment important ce que tu dis. C'est là où tout se joue en réalité, parce que c'est ce qui distingue un ordi qui sert à rien d'un ordi avec lequel on peut vraiment, vraiment faire des trucs.
Ouais. Et aujourd'hui, on n'a que des ordis qui servent à rien, justement parce que...
Ils servent pas tout à fait à rien.
c'est des très beaux objets de physique, c'est incroyable. Par contre, on n'a jamais fait... Alors si, en fait, on a fait... Enfin, en fait, c'est Google qui a fait un calcul plus rapidement sur un ordinateur quantique que... Enfin, ils ont estimé qu'il aurait fallu 10 000 ans sur un ordinateur classique. Après, il y a des gens qui ont dit, bon, j'ai optimisé, en fait, il aurait fallu moins, etc. Mais bon, bah, on ne va pas rentrer dans ce tunnel. Mais en tout cas, voilà, ils ont appelé ça la suprématie quantique. Mais en fait, le calcul était tellement... Enfin, était choisi spécifiquement. Tu vois, c'était le seul calcul, à peu près, qu'ils pouvaient faire...
Ouais.
Qui marchait et c'est pas du tout un calcul utile, tu vois. Et okay. Pour faire vraiment un calcul utile, il y aura besoin de cette correction d'erreur, donc qui est juste rajouter de la redondance dans mon système. Et le problème aujourd'hui, c'est vraiment que comme il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'erreurs, il faut beaucoup de redondance. Et donc à la fin, des chercheurs toujours de chez Google ont estimé que pour faire tourner l'algorithme de Shor, donc qui est souvent ce qu'on utilise pour les benchmarks, donc pour KCRSA, il faudrait 20 millions de qubits. Et pour donner un ordre de grandeur, le record aujourd'hui, c'est...
alors Google, IBM, c'est 70.
Google en a 70, IBM, ils en ont 400 à peu près. Il y a une entreprise qui a annoncé qu'ils en avaient 1000.
Après, IBM, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont extrêmement opaques.
Ok, d'accord.
C'est un peu une boîte noire, IBM. Ouais,
donc,
Google partage beaucoup plus ce qu'ils font.
Ok.
Bon, en tout cas, tu vois qu'il y a...
On est sûr qu'eux, ils en ont moins 70, ce qui est très, a priori très très loin du compte.
Oui.
On est très très loin du compte et donc
et c'est pas juste mettre 100 fois plus d'argent, j'imagine, ou dupliquer la machine pour augmenter les qubits. En fait, le nombre de qubits est un des critères qui est dur à augmenter, j'imagine.
Oui, ben en partie. Enfin, du coup, là, tu rentres dans ce qu'on appelle le problème du scaling, c'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses une technologie. Tel que, une fois que tu as validé la brique technologique unitaire, en mettre 100, c'était pas plus dur que d'en mettre 1, tu vois.
Ouais.
Enfin, et en l'occurrence, c'est pas 100, c'est plutôt tout de suite des centaines de milliers. Mais du coup, avec les nombres en question, par exemple, une première barrière, c'est la taille des cryostats à dilution, tu vois. Je t'ai montré des frigos.
Oui, ça ressemble. c'est combien de qubits un frigo comme ça, là?
Alors, si vraiment tu le... Ah, waouh, j'aurais dû essayer de calculer ce nombre.
Tu peux en mettre jusqu'à 50 ou 100, je crois.
Ouais, en termes de ligne de descente et de montée, ouais,
Okay.
En physique, ouais. C'est ça.
Tu pourras pas en mettre 20 millions là-dedans.
Imaginons qu'on optimise comme des ouf-guedins et qu'on ait que des lignes d'essai. Je pense qu'une safe bound sur un cryostat que t'as vu en image, c'est moins que 5000. Genre, et là, je suis vraiment mais maxi généreux, tu vois.
Ouais, ok. Bon, en gros, soit on se retrouve avec des buildings remplis de frigos à 0 degré Kelvin, soit on trouve une autre solution. Et j'imagine, en réalité, cette première solution n'existe même pas. C'est-à-dire que c'était un des rares moments où le grand public a entendu parler du quantique à nouveau. C'est bon, Google a atteint la suprématie quantique. Suprématie quantique qui est censée être le point d'inflexion où on a prouvé qu'on savait faire un truc mieux avec un ordi quantique qu'avec un algorithme, enfin, un CPU normal. Et donc là, tout le monde a entendu parler de ça en mode, oh, vous avez vu, c'est bon, ça y est, etc. Et en fait, comme tu dis, bon, l'algo, il sert à rien, là. A priori, personne n'en a entendu parler à nouveau. Et vous n'êtes pas parti sur, a priori, la même stratégie. C'est ce que j'ai compris. Vous êtes sur un chemin complètement différent. Expliquez-nous pourquoi, déjà. Pourquoi vous ne faites pas comme Google? On pourrait dire, si Google le fait, a priori, c'est qu'ils ont des bonnes raisons d'être sur cette voie-là. Pourquoi vous ne faites pas comme Google et à quoi ressemble votre solution, en gros?
Vas-y, il faut un peu plus de correction.
Donc, Google et IBM, ils utilisent la même techno qu'on appelle les transmons pour ceux qui voudront creuser. Donc, il y a un truc qui a été développé en 2008, je crois, et qui quand même marche très bien. Et tu vois, l'expérience de suprématie quantique, même si en fait c'est qu'un point de départ dans l'histoire de l'ordinateur quantique, ça montre quand même que, tu vois, Google, ils ont réussi à maîtriser 50 qubits transmons ensemble, à faire ce qu'ils voulaient, etc. Donc en vrai, c'est
une expérience de physique absolument magnifique, quoi. Enfin, ouais. C'est un énorme exploit technique, déjà, ce qu'ils ont fait. Enfin, il faut rendre à César ce qui est César, quoi.
Oui, bah, ça a fait Nature direct. Donc Nature, c'est le journal le plus prestigieux. Nous, c'est une expérience incroyable, ce qu'ils ont fait. Donc l'histoire d'Alice et Bob, elle commence plus vers 2014-2015, où en fait des chercheurs français ont inventé un nouveau type de qubit qui donc s'appelle le qubit de chat. Donc c'est pour ça que sur les logos d'Alice et Bob, il y a des petits chats. Donc c'est une référence au chat de Schrödinger. Et donc l'idée du qubit de chat, c'est... pour comprendre le qubit de chat, il y a un truc à expliquer d'abord.
On parle du qubit.
C'est il y a dans un ordinateur quantique, donc non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus il y a deux types d'erreurs. Donc souvent, ce qu'on utilise, c'est une représentation sur une sphère. Donc en fait, ou un bit classique, on peut imaginer, c'est juste une pièce pile ou face, par exemple. En fait, un qubit, son état, on peut le représenter comme une flèche qui pointe sur une sphère. Donc tu vois, si elle pointe vers le nord, c'est 0. Si elle pointe vers le sud, c'est 1. Si elle est sur l'équateur, c'est qu'elle est en superposition de 0 et 1. Et tu vois qu'il y a un continuum d'état le long de la sphère.
Je vais prendre juste une seconde. Tu vois, on n'arrête pas de dire on fait des états superposés. Et ce que ça veut dire, c'est que tu es 20% dans 0 et 40%... Non, évidemment. Voilà, je suis une erreur de maths, évidemment. 80% dans 1. Et du coup, intuitivement, tu pourrais dire, ah oui, un qubit, c'est un curseur, quoi.
Ouais.
Et en fait, il se trouve que si tu fais les maths de la mécanique quantique, malheureusement, la réalité n'est pas aussi simple. Il te faut les nombres complexes pour en parler. Et du coup, tu es sur la surface d'une sphère. N'empêche que si tu es proche du pôle nord, tu es plus dans 0. Si tu es proche du pôle sud, tu es plus dans 1. Sur l'équateur.
Mais vous, une sphère est une bonne représentation.
Et c'est une représentation exacte. De 1 qubit.
Okay.
1 qubit.
Ok.
Et donc, tu vois, les erreurs dont on parlait, c'est passer du pôle nord au pôle sud. Mais après, tu peux aussi être sur l'équateur et drifter le long de l'équateur. Tu vas passer de l'Afrique aux Amériques. Et c'est aussi un problème et c'est aussi une erreur qu'on doit corriger. Donc, c'est ce qu'on voit là.
D'accord.
Et donc, en fait, il y a deux types d'erreurs dans l'ordinateur quantique qu'il faut corriger. Et donc, cette deuxième erreur où tu driftes le long de l'équateur, on appelle ça un phase flip. Donc, la première, on appelle ça un bit flip.
Okay.
Donc, c'est une erreur qui existe que en physique quantique. Donc, non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un nouveau type d'erreur qu'on doit corriger.
Fascinant. Ce qui me fait, c'est de découvrir le vocabulaire. C'est un monde à part entière, quoi.
Alors, c'est un vrai truc. Quand tu arrives en thèse dans ce domaine et que t'es pas trop familier au début, la première chose qui te choque, c'est que les gens au labo parlent.
Et tu comprends rien.
Et tu comprends vraiment rien. Et il te manque les mots, en fait. C'est vraiment rentrer dans ce domaine profondément, c'est un peu apprendre un nouveau langage. Un
terme qui n'existe nulle part ailleurs, comme tu dirais.
Ouais. Bah, les onboarding à Alice et Bob sont assez longs. Et donc, voilà, il y a ce nouveau type d'erreur. Non seulement il y a beaucoup d'erreurs, mais en plus, il y a un deuxième type d'erreur. Et donc, ce que typiquement Google fait, c'est ce qu'ils utilisent. Ils utilisent en fait un code correcteur d'erreur qui est en 2D, donc on appelle ça un code de surface. Et c'est vraiment par rapport au, tu sais, je te disais, bon, on met 3 zéros, on en met 5, etc. Tu vois, on augmente la redondance selon une direction. Là, pour corriger les deux types d'erreurs, en fait, ils sont obligés d'avoir des qubits en deux dimensions. Donc une dimension pour corriger les zéros qui vont se transformer en 1, et une dimension pour corriger donc, les drifts selon l'équateur. En fait, c'est quand tu es en superposition de 0 et 1, en fait, mathématiquement, tu es dans l'état 0 plus 1. En fait, tu peux passer dans l'état 0 moins 1, genre le signe peut changer.
Avec les crochets.
Et c'est avec les crochets, et c'est aussi un problème. Et donc, ils ont besoin de ces deux dimensions pour corriger les deux types d'erreurs. Et c'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 20 millions, tu vois, parce qu'à la fin...
Oui, en fait, quand tu augmentes un qubit, d'un qubit, en fait, tu as besoin de corriger deux fois ces erreurs, donc c'est la progression est...
C'est au carré, quoi. Okay.
Ouais. Ils sont, tu vois, ils sont à 1 pour 1000, en gros, c'est-à-dire qu'ils prévoient ça... l'informaticien quantique du futur, enfin, si selon Google, tu vois, il manipulera, lui, il sera à un niveau plus abstrait où il s'embêtera pas avec la correction d'erreurs. En fait, chaque qubit qu'il manipulera, ça sera en vrai 1000 qubits derrière.
Ouais, d'accord. Cachés, mais qui corrigeront tout ce qu'il fait.
Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 20 millions.
Ah, mais c'est marrant, j'ai compris, enfin, pourquoi, depuis tout à l'heure, on parle de 70 qubits, 200 qubits, et que pourtant, quand on... Parce qu'on peut faire des simulations via des API d'IBM ou de Azure.
Tout à fait.
Pour interagir avec les qubits. Et les nombres, c'est plutôt 7 ou 8, je ne me rappelle plus exactement.
Alors, sur l'API d'IBM, c'est vraiment des qubits hardware que tu as. Okay. Ce n'est pas des qubits qu'on dirait logiques, qui sont des collections de qubits qu'on corrige en continu pour essayer d'en avoir un mieux. Et du coup, tu n'en as pas beaucoup sur leurs API. Mais je crois que sur leur API, ils ont au moins un chip à 50 qubits, non ? Okay. IBM. Mais ouais. Voilà.
Pardon, j'ai dévié. Donc, ce qui nous ramène à la question, ça, c'est la stratégie donc de Google qui pose du coup ce très très gros problème là. Première question, est-ce que eux ils pensent qu'ils vont y arriver comme ça? J'imagine s'ils continuent à investir, mais ou est-ce qu'ils sont un peu désespérés là?
Je dirais pas qu'ils sont désespérés. Enfin, il y a une très grosse conférence de physique où il y avait un chercheur de Google qui avait présenté les résultats du code de surface. Encore une fois, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et ils avaient dit oui, bon, les chiffres paraissent gros, mais on pense qu'on y arrivera. Bon, après, on sait pas ce qui est.
Ouais.
Après, il faut savoir qu'ils recherchent en parallèle d'autres types de qubits.
Okay, c'est ça.
Okay. Ils ont un espèce de département R&D à l'intérieur de leur unité quantique. C'est déjà un département R&D.
Okay.
En fait, ce qu'il faut que tu vois, c'est que les circuits supraconducteurs, c'est une plateforme qui est extrêmement versatile. Et en réalité, tu as toute une zoologie de façons de faire des qubits sur cette plateforme. Ouais. Donc aujourd'hui, ils sont sur les transmons, mais ils explorent... tout l'état de l'art en parallèle, et si un jour il y a une techno qui devient sensiblement meilleure, okay. Ils switcheront.
Ah, je pense qu'ils changeront.
Et en parlant de techno différents, justement, vous n'avez pas choisi ce qu'ils font. Pourquoi ? Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Donc, nous, on utilise, donc je reviens, on a pris un petit détour. Donc, en 2015, il y a des chercheurs français qui ont inventé le qubit de chat, donc qui est aussi un circuit supraconducteur, mais où tu mets tu vois, juste ton circuit est câblé différemment. Et ce qubit, il a en fait jamais de bit flip. C'est-à-dire, en fait, on supprime exponentiellement un des deux types d'erreurs et il reste que l'autre type d'erreur à corriger.
Okay.
Et donc, c'est ce qu'on voit assez bien visuellement qu'en fait, à la place d'avoir un carré pour corriger des erreurs, on a juste une ligne.
C'est linéaire, du coup. C'est-à-dire que,
ouais.
A priori, ça a l'air super. Surtout, il y a un petit chat. quelle est cette magie?
Donc c'est pourquoi tout le monde n'utilise pas des qubits de chat, parce que c'est quand même un peu plus dur à faire qu'un transmon, mais nous on pense vraiment que c'est la bonne voie, tu vois, quand on regarde les chiffres de 20 millions donc typiquement ce chiffre de 20 millions, il se compare chez nous à une centaine de milliers de qubits, c'est-à-dire qu'une centaine de milliers de qubits de chat, tu pourrais faire la même chose que ce que fait Google avec 20 millions de qubits. Donc c'est toujours gros, 100 000, mais ça reste quand même plus...
c'est plus raisonnable, quoi.
Ça fait moins sursauter les expérimentateurs.
C'est sûr.
Parce que oui, si tu mets un expérimentateur, un mec qui branche des câbles, qui passe sa vie à mesurer des qubits...
toi.
Dans la même pièce.
Dans la même pièce qu'un mec qui dit « Oui, 20 millions de qubits sera facile », il fait une syncope, quoi, le mec. c'est à peu près ça la situation aujourd'hui.
Et donc 100 000, effectivement, ça paraît une progression de dingue. Comment ça se fait?
Comment ça marche?
Comment ça marche un qubit de chat? Buckle up. Donc, je vais tâcher de vous expliquer un peu avec les mains comment on s'y prend pour faire nos qubits tels qu'il n'est pas de bit flip. C'est-à-dire que quand on les place dans zéro, ils restent dans zéro et ils y restent tellement bien qu'on n'a pas besoin de faire de la correction d'erreur software par-dessus.
Ouais,
on s'en préoccupe plus, quoi, on l'oublie. Et donc pour ça, je vais prendre une analogie qui a été proposée par Raphaël Lesken un peu après sa soutenance de thèse, donc l'un des deux fondateurs d'Alice et Bob. Donc, tu vois, nos circuits supraconducteurs, ça reste des circuits. C'est-à-dire, ils sont parcourus par des courants supraconducteurs, mais au fond, tu peux penser, tu vois, quand tu fais de l'électronique au lycée, t'as des courants et t'as des tensions, et puis il faut calculer des résistances. C'est pas différent, si différent que ça, ce qu'on fait, seulement, c'est pas les mêmes composants. Et nous, on travaille plutôt avec des flux magnétiques et des supercourants et des tensions. Et tu vois, ces nombres, je peux venir, ils ont une certaine équation de la dynamique sur nos circuits, tu vois. Tu peux écrire comment ils se comportent au fil du temps, l'équation qui régit leur comportement. Et du coup, il se trouve que pour les circuits supraconducteurs, la plupart du temps, tu peux construire des systèmes mécaniques, mais qui ne sont évidemment pas quantiques, tu vois, mais qui ont le bon goût d'avoir les mêmes équations du mouvement. Et du coup, les regarder comment ils se comportent, ça te donne une bonne intuition de ce qui se passe à l'échelle quantique. Et alors, du coup, je ne sais pas si la régie peut envoyer l'aide première animation du dossier 4, mais là, je vais vous montrer du coup ce qui s'appelle un pendule paramétrique. Donc là, vous en voyez 6 à l'écran. Donc je vais vous décrire ce système. Donc vous voyez un pendule qui est suspendu à une petite plaque qui est elle-même suspendue à un ressort. Et donc la petite plaque peut monter et descendre. Alors là, on ne le voit pas, on a l'impression qu'elle ne monte pas et qu'elle ne descend pas. Mais si on revient au début, vous voyez au début, elle oscille. Et très vite, tous mes pendules, ils convergent soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors pourquoi ça se passe? C'est parce que le ressort en haut, je l'agite à deux fois la fréquence propre du pendule. Ok? Si bien, alors je vais le faire avec les mains. Donc tu peux rentrer dans un régime où si le pendule est en haut à gauche, mettons, je tire le ressort vers le haut, ça compense l'accélération du pendule vers le bas. Et ensuite, je redescends l'excitateur en haut, l'agitateur en haut, et le pendule arrive en haut à droite. Et du coup, tu peux rentrer dans ce régime oscillatoire où quand le ressort fait une oscillation complète, le pendule fait une demi-oscillation.
Okay.
Et là, ce qu'il faut voir, c'est que si je commence depuis l'état d'équilibre, depuis le vide, ce qu'on appelle le vide, on y reviendra, eh bien, tu vois, le pendule, il doit faire un choix au début. Il doit choisir s'il part d'abord à droite ou d'abord à gauche. Et du coup, si je te donne une référence de temps, eh bien, la trajectoire où il est parti d'abord à droite et la trajectoire où elle est partie d'abord à gauche, c'est ce qu'on voyait dans l'animation, tu peux la discerner et ça peut te servir de truc binaire. Tu vois,
corriger.
D'un 0 et d'un 1. Et alors, bon, il se trouve que le circuit que vous avez vu, on l'a fabriqué en vrai.
Oh, trop bien.
Du coup, trop tout le monde.
Je le voyais un peu derrière, je me demandais vraiment ce que c'était depuis le début.
Donc c'est vraiment ce que vous avez vu sur l'animation. Vous voyez, ici, là, je ne sais pas si on voit bien à la régie, j'ai un ressort.
Juste, okay, avant, pour préciser, ça, dans l'idée, c'est un qubit de chat.
Dans l'idée, c'est un qubit de chat. Évidemment, ce n'en est pas. Hein.
Analogie,
c'est
évidemment.
Une analogie. Je veux juste
ça a vraiment
vous donner
les mêmes
un...
équations. Quand même.
Ça a vraiment les mêmes équations. C'est-à-dire, si tu, là, tu écris l'équation theta, sur θ et θ point du pendule et sur x et x point de ça, et que je te montre les équations du circuit, ben, c'est les mêmes. Seulement, dans notre circuit supraconducteur, si vous faites de la mécanique quantique, nous, on n'écrit pas des variables. On a des opérateurs qui ont des chapeaux. Et du coup, il y a des crochets partout. Mais okay, au fond,
c'est la même chose. Okay.
C'est un peu la même chose. OK. Et donc, tu vois, ce truc-là monte et descend. Je peux l'agiter avec ce petit moteur. Et ça oscille. Et donc déjà, un truc marrant, donc je ne sais pas si la régie peut envoyer la vidéo, c'est qu'avec le pendule, on a montré que... Enfin, on a montré... Alors, par contre, je pense qu'on peut couper le son.
Le
donc
son
là, voilà, et si tu peux refaire play, c'est parfait. En gros, on n'a plus la vidéo. Tant pis, c'est pas grave. Donc là, j'ai superposé plein d'images de mon pendule en même temps et je les ai synchronisées. Il y en a 4. Donc au début, ça fait un peu n'importe quoi quand je pars de l'état au repos. Le système est dans un régime assez chaotique, tu vois.
Ouais.
Mais très vite, donc là, ça commence à arriver, tu vois, tu converges soit vers la trajectoire qui est dans un sens, là c'est bon, on est bien synchronisé, soit vers celle qui est dans l'autre sens.
J'avais pas compris, franchement, avec l'animation d'avant, j'arrivais pas bien à comprendre.
Et là, c'est
très clair. Hyper clair.
Et alors, par exemple, juste pour dire, donc le chat qui va osciller comme ça, ça va être notre 0. Ouais,
c'est
et celui qui va osciller en opposition de phase comme ça, ça va être notre 1.
Ouais.
Et alors là, il y a une observation cruciale à faire. C'est que si vous regardez la partie supérieure de l'image, donc là où le pendule est ancré, je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les vidéos sont parfaitement superposées. Tu ne peux pas les discerner.
Ouais.
Au début, tu peux,
ouais.
Mais pas dans le régime permanent.
Là, on voit, il fallait le temps que ça se synchronise, en fait.
Oui.
Mais à la fin... Tout ce qu'on peut considérer comme de l'erreur, du coup, en fait, disparaît.
Alors, j'ai envie d'y arriver. Donc déjà, je vais vous dire pourquoi ce système est bien protégé contre les bitflips.
Ouais.
Alors ça, c'est la vidéo suivante. Je profite.
Mais moi, ce que j'ai hâte qu'on le fasse marcher, parce qu'en vrai.
Ah, vous voulez le faire marcher en vrai?
On pourra.
Ah ben, j'ai la lime et tout, mais il faut que quelqu'un me ramène le sac de course qui est dans le lobby.
Franchement, ça vaut le coup. On le fera à la fin.
Ok.
Comme ça, ils ont le temps de d'amener tout ça.
Ok. Bon, donc si on peut envoyer la vidéo suivante, je vais vous démontrer que ça marche.
Ça marche
là,
bien.
J'ai pris deux vidéos qui sont en phase, et vous voyez avec mon doigt, je viens donner des coups dans le pendule. Ça, vous pouvez imaginer que c'est le monde extérieur qui vient perturber le système.
Okay.
Je sais pas si vous voyez, mais il s'auto-stabilise, il revient tout seul.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Il passe pas dans l'autre état, il reste dans l'autre état. C'est un système qui est extrêmement robuste aux perturbations.
Okay.
Donc ça en fait un bon candidat pour être un bit. Là, tu m'as dit, bon, ben, génial, tu m'as fait un bit classique avec
pendule.
Un pendule. Il m'en faut plus que 50 millions pour faire un ordinateur normal.
Oui, même pas quantique pour l'instant.
Ok, et donc là, le point crucial... Ok, je vais faire un tout petit détour, mais je pense que ça vaut le coup. Donc, vous voyez, pour l'informatique classique, vous voulez pas que vos ordinateurs aient des erreurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le monde extérieur, j'en sais rien, l'électricité statique, les rayons cosmiques, ce que vous voulez, est transformé en 0 ou en 1. Et ça, vous pouvez imaginer que c'est une porte non conditionnelle à quelque chose d'extérieur.
Ouais.
Ok.
Par exemple, oui ou non, le chat a marché sur le processeur et changé un bit.
Exactement. Bon, eh bien, en informatique quantique, il y a un truc qui s'appelle la mesure, qui a le mauvais goût de projeter les états. Et en fait, c'est totalement analogue à ce que tu ne veux pas, c'est que l'environnement puisse modifier, le système puisse modifier l'environnement. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ton ordinateur puisse modifier pendant le calcul. À la fin, évidemment, tu vas le regarder, mais pendant le calcul, tu ne veux pas que ton système puisse faire fuir de l'information vers l'environnement. Et il se trouve que, étant donné la façon dont nos circuits sont designés, le seul endroit où il y a un vrai gros point de fuite, si je le montre sur le pendule, c'est ici.
Ok.
D'accord ? C'est vraiment à cet endroit que notre circuit, on dit qu'il est très dissipatif, qu'il y a beaucoup de décohérence. Or, ce truc-là, tu vois, quand tu es bien dans ton code space, on parle de, tu vois, la trajectoire qui nous sert de 1 et de 0,
ouais.
Ben, si tu regardes que ce truc, je te cache le reste,
ouais.
Tu ne peux pas savoir si le système il est dans 0 ou dans 1. Et ça veut dire que... Alors, bon, évidemment, ce serait plus dur que ça, mais si je prends ce pendule et que je le refroidis très très froid, bien plus froid que l'énergie typique d'excitation de ce pendule, et que je l'agitais avec des états cohérents, enfin... Bref, sur le principe, on pourrait imaginer le mettre dans une superposition cohérente s'il n'y avait pas du tout de frottement à cet endroit et qu'il y reste. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans nos circuits. Seulement, ce pendule dans nos circuits, c'est évidemment pas un pendule, c'est en réalité le champ électromagnétique autour d'un petit résonateur. Tu peux y penser comme une petite boîte dans laquelle on met des photons, parce qu'au fond, ce avec quoi on travaille, c'est de la lumière, c'est des modes bosoniques. Et le champ électromagnétique dans ces boîtes, la façon dont elle oscille, c'est soit... avec une phase nulle par rapport à ce qu'on appelle le drive, soit avec une phase de pi, et du coup ça nous sert de 0 et de 1.
Du coup, ce qui fait que c'est à peu près équivalent avec cette trajectoire en arc de cercle de ce truc.
Tout à fait.
Dinguerie. Alors, est-ce que je vais essayer de résumer ce que tu viens de dire. Tu me dis si je n'ai rien compris. Et me jugez pas parce que c'est quand même...
Non, c'était la partie la plus dure du live.
C'était la partie la plus difficile.
Ok. Déjà, il y a un truc pour qu'on raccroche tout le monde. Si moi, j'ai bien compris, il y a quelque chose dans la physique quantique qui est hyper perturbant quand on découvre le concept de base, qui est que la personne qui constate quelque chose, qui vient faire une mesure, peut avoir une action sur le système qu'elle mesure. Ce qui n'est pas trop le cas dans la vie. C'est-à-dire qu'a priori... Je sais pas moi, quelle analogie on peut prendre.
Le fait de regarder le système, alors il y a plein de problèmes avec la façon dont je viens de le dire, change le système quoi.
Par exemple, j'allais
dire. Vulgaire de le dire.
Si tu mesures la vitesse d'un ballon de foot, ça va pas changer sa vitesse juste parce que t'as pris une caméra et t'as filmé sa vitesse. Alors qu'en physique quantique, si quoi.
A priori, si. Et donc c'est pour ça que ce que t'expliquais, c'est que ici il y a un système qui permet de faire cette synchronisation entre guillemets.
Stabilisation.
Stabilisation. Ouais. Et pour autant, quand tu regardes l'endroit que tu as pointé, là, quand tu regardes le milieu, on ne peut pas savoir dans quel état le qubit, donc, s'il est à, ici, s'il est à gauche ou à droite, s'il est proche de 0 ou de 1, tout tu ne peux pas savoir dans quel état il est juste en regardant cet endroit. Et donc, tu ne peux pas niquer le calcul.
Tout à fait.
C'est ça un peu ?
C'est un peu ça. Et je vais rajouter une petite couche par-dessus, qui est que même pour un mec qui fait de la physique quantique, c'est en fait assez contre-intuitif. Parce que, donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour que cette stabilisation marche, il faut que là, ça fuite beaucoup, quoi. Ça frotte, ça fait beaucoup de ce à quoi on s'attendrait qui provoque des erreurs. Et il se trouve qu'on a designé ce système pour que, ok, à cet endroit, bah, c'est tout pourri, il y a beaucoup d'informations qui fuient, mais on l'a tailoré pour que l'information qui fuit n'emporte pas le morceau crucial qui est-ce que je suis dans 0 ou dans 1 ?
Ok.
Quand je dis « on », c'est véritablement le papier de 2015. C'est pas moi qui ai eu cette idée.
Oui, c'est des papiers produits par les fondateurs, du coup, d'Alice Bob. Ah,
plutôt les directeurs de thèse des fondateurs.
D'accord, ok.
Mais c'est...
qui leur a après donné l'idée de créer l'entreprise Alice et Bob. Alice et Bob, qui est évidemment une référence à ceux qui font la crypto.
Est-ce que j'ai le droit de partir un tout petit peu plus loin ?
Je t'en prie.
Il y a une dernière animation. Mais ça, c'est pour les gens du live qui ont envie de regarder des papiers. Je tiens à la montrer. Donc, tu vois, à gauche, là, on remonte le qubit sur la sphère de bloc, ce qu'on appelle la sphère de bloc, quoi, la boule qui représente l'état quantique. Et à droite, ce que je te représente, c'est un truc qui s'appelle la fonction de Wigner, qui est une représentation de l'état d'un résonateur. Et tu vois, un physicien, lui, il regarde cette fonction de Wigner, tu vois. Et elle a deux blobs, un rouge en haut et en bas. Bon, bah, c'est le 0 et le 1. Et tu vois, quand la fonction de Wigner, elle a des franges au milieu, ça veut dire que t'es dans un état qui est bien cohérent.
Ouais.
Le chat, il a des moustaches. et voilà. Et du coup, si un jour vous allez sur Archive et vous regardez des papiers, bah, vous verrez pêle-mêle ce type de représentation.
Voilà. Okay.
C'est pour les gens qui font des technos proches de la nôtre, en tout cas, c'est vraiment avec ça qu'on travaille. C'est juste pour
ça,
le
ça, c'est vraiment le printf de l'ordinateur quantique. Exactement. C'est ce que les physiciens regardent en sortie de leur ordinateur quantique.
Ah, mais tu vois, genre, t'as deux physiciens qui discutent, il y en a un qui dit « Ah ouais, j'ai un qubit », l'autre il dit « Montre-moi les franges, les moustaches de ton chat, quoi. » c'est vraiment ça.
Et donc, là, dans le schéma qu'on a vu, si jamais au milieu, en gros, il y avait un truc tout rouge... qui clignote et qui tourne.
Ça veut dire que t'es bien sur l'équateur de la sphère de bloc, que t'as bien un mélange quantique de 0 et de 1.
Ok.
C'est ça.
Ça marche. J'allais dire très clair, mais peut-être pas non plus très clair, mais un peu clair. Ce qui est pas mal déjà, en vrai, quand tu y réfléchis. franchement, c'est hyper intéressant. Merci pour ces schémas et de nous avoir amené ça. Ça rend effectivement le truc un peu moins abstrait et abscon, ce qui est souvent le cas quand on parle de ces choses-là. Est-ce que, parce qu'on a parlé du fait que tout ça venait d'un papier en 2015, etc., fait par un Français du coup, est-ce que pourtant vous êtes les seuls à travailler, à mettre en place ce système-là ?
Alors, ce système-là précisément, on est un peu les seuls. Donc, notre système, donc on fait des qubits de chat, donc ça c'est l'image qu'on vient de flasher. Et la façon dont on les fait, c'est une stabilisation dissipative. On est un peu les seuls à les faire, mais on n'est pas les seuls à travailler avec des qubits de chat. Il y a d'autres façons de les faire.
Il y a quand même Amazon qui fait pareil. Mais...
Mais
du coup, en fait, Amazon, ils ont... C'est un peu les derniers à s'être lancés. Enfin, Google et IBM, ils sont lancés depuis 10 ans à peu près, même un peu plus maintenant. Microsoft aussi, ils sont lancés depuis assez longtemps. Et Amazon, bon, ils ne s'étaient pas lancés. Justement, ils ont annoncé qu'on va travailler sur ordinateur quantique. Et en fait, ce qu'on a appris après, c'est qu'ils ont recruté plein de chercheurs, donc vraiment des grosses stars aux États-Unis, genre 50 chercheurs hyper connus. Ils les ont fait travailler pendant un an pour savoir quelle est la bonne voie pour construire un ordinateur quantique. Et la conclusion, c'est qu'il faut faire comme Alice et Bob. c'est vraiment à peu près ça qui s'est passé.
Ah ouais.
Donc finalement, on peut dire, si tu regardes juste la situation comme ça, tu peux te dire que bon, ça a mis un gros coup de pression au fondateur de la boîte, évidemment. Mais finalement...
Ah, c'est flatteur d'avoir le papier de Raphaël Ezaki hein, sur toutes les slides d'Amazon. Quoi.
C'est clair. Et donc Et par exemple, pour une des premières questions que je m'étais posée quand on m'a raconté cette histoire, c'est est-ce que notre technologie, elle est brevetée ? Est-ce qu'ils ont le droit de l'utiliser ? Donc oui, elle est brevetée. Mais en fait, tant que tu vends rien, ils peuvent construire un labo, faire des qubits de chat dedans, les tester. Tant qu'ils vendent rien, on peut rien faire, tu vois. Donc c'est parce que c'est le principe de la science, quoi. Ouais. Tout le monde a le droit de faire de la science.
Il peut faire des publications qui complètent les.
Ouais, totalement. C'est le principe de la science, cool. Quoi. Et du coup, bah déjà en fait, ça fait énormément de pub pour la technologie d'Alice et Bob, et même en termes de validation, tu vois.
C'est une très bonne chose en réalité.
Quand notre CEO il va, tu vois, présenter à des investisseurs et que tu dis, bah il y a Amazon qui a validé notre technologie et qui fait pareil, tu vois, c'est ça met un peu en confiance quand même. Puis après, il y a aussi un autre point, c'est que on a commencé avant eux, on était un peu en avance et on a, enfin, au vu des résultats qu'on a aujourd'hui, on a quand même gardé notre avance. Donc, ce qui est assez cool, parce que c'est pas, enfin, tu parlais un peu de ça, c'est pas qu'une question d'argent, justement. Certes, Amazon, ils ont plus d'argent que nous, c'est clair, ils ont sûrement aussi plus de gens maintenant. Mais c'est surtout une question de cerveau, quand même, aujourd'hui.
Ouais.
Vu que ça reste quand même de la recherche fondamentale.
En France, on est très bon pour produire des cerveaux, ça, c'est incontestable.
Et donc, en tout cas,
et j'imagine que suivant les domaines, la population de gens en capacité de résoudre le problème est pas forcément la même. Est-ce que dans ce secteur-là, donc l'informatique quantique de pointe, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler là-dedans, qui peuvent pousser les choses aussi
loin? Il y a de plus en plus de. Enfin, ouais. C'est vraiment un champ qui est nouveau. Ouais. Donc il y a pas, tu vois, des experts des qubits de chat, il y en a pas des milliers, et bah il y en a beaucoup qui sont en France, et c'est en partie pour ça qu'on arrive à garder notre avance aussi. Après il y a de plus en plus de masters qui sont créés, ouais, en informatique, ouais, quantique, mais ça
ma perception cours, du truc, c'est que c'est un peu comme l'IA, mais tu vois, l'informatique quantique d'aujourd'hui, c'est l'IA des années 98, quoi. C'est aussi dur de rentrer dans l'IA maintenant. Allez, 2005 par là, quoi. Début des années 2000, ouais, tu vois. Mais à un moment donné, je pense que ça va arriver, quoi. À grands coups de vulgarisation et tout, les gens vont rentrer plus facilement dedans. Et puis quand il y aura des applications qui marchent vraiment.
Bah là, quand vous allez avoir 200 candidatures sur ce live, déjà pour commencer, on a pas mal parlé de projection, de ce qui sera possible. Il faut atteindre 100 000 qubits de chat pour résoudre. Tel ou tel algorithme. Concrètement, si on ne parle pas de projection, maintenant, là, tout de suite, vous arrivez à voir combien de qubits et vous projetez d'en faire combien?
Qu'est-ce qu'on a le droit de disclose? J'ai peur de...
Alors, en tout cas, bon, on peut dire l'étape que tout le monde veut franchir aujourd'hui, c'est de faire marcher la correction d'erreur.
Oui.
Et c'est un truc que personne n'a. Donc, construire ce fameux qubit logique, arriver à corriger les erreurs, personne n'y est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a Google qui était vraiment très très proche, mais qui était juste au-dessus de la barre. Il était 20% au-dessus. Et donc voilà.
Passer en dessous de la barre.
Faut passer en dessous, ouais. Ça c'est pas ouf comme métaphore. Mais c'est en ce sens-là que ça marche. Donc Alice et Bob, on a toujours l'espoir d'être éventuellement les premiers à passer la barre de cette correction d'erreur. Et l'intérêt, c'est que même pour juste faire ça, même pour montrer que la correction d'erreur elle marche, tu vois, c'était le carré par rapport à la ligne. On a besoin de beaucoup moins de qubits. Typiquement dans le labo aujourd'hui, on a disons une, qu'est-ce qu'on a le droit de dire,
je sais pas, on
travaille sur des prototypes de disons entre, enfin il faut au minimum 5 qubits, on a des prototypes avec au moins 5 qubits jusqu'à une dizaine de qubits, et pour l'instant on travaille vraiment sur ça et faire marcher la correction d'erreur, c'est vraiment la priorité numéro 1. Après, évidemment, on travaille aussi sur scaler ça, parce qu'à la fin, il en faudra 100 000 quand même.
Tout à fait.
Mais voilà, on est vraiment... Enfin, en tout cas, voilà.
Donc, entre 5 et 100 000, en gros, à peu près.
Bon, après, bonne fourchette.
Et après, quand est-ce que vous pensez... je sais que c'est toujours dur de faire des projections, mais c'est ça qui nous intéresse aussi. Si on devait s'imaginer ce moment-là où, justement, la barre va être franchie, vous pensez que c'est quand?
Ben, je pense qu'on le verra, c'est sûr. Et moi, si mon petit réseau de neurones bayésien intégré, à force d'écouter les conversations de couloir, enfin, un horizon de temps de 20 ans, ça me paraît même peut-être 10. Enfin, c'est tout à fait possible, quoi.
Ça, c'est pour construire un ordi quantique.
Pour construire un full ordinateur quantique, ouais.
Pour faire marcher la correction d'erreurs.
Ah oui, ça, c'est beaucoup plus court.
C'est, je vois, peut-être l'année prochaine.
Ah ouais, ouais. Ah ouais.
Mais enfin, Google est bien.
Google est
pas loin, ouais.
Ils ont quasiment réussi. En vrai, c'est même dommage pour le. Enfin, même bon, on sera content que si Alice et Bob y arrivent en premier, pour le champ général.
Ouais.
En vrai, ça aurait été cool qu'ils y arrivent.
Ou plutôt le mieux, quoi. Mais c'est quand même le fait de se dire que vous pourriez arriver à faire cette démo-là avant Google, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont sur le DOS. C'est quand même fou, non?
Bah, on donne tout.
Hein. Alors, on donne tout et on vend pas de la peau de l'ours, mais on donne tout.
Ouais, c'est ça. On va suivre ça de très très près, évidemment. Question bête, mais est-ce que, parce que moi, il m'en reste d'autres, évidemment, mais est-ce qu'il y a des aspects qu'on a peut-être pas suffisamment explorés, selon vous, des trucs, des idées reçues que peuvent avoir les gens sur votre domaine, qu'est-ce que ce serait l'occasion, justement, de d'évincer.
Putain, les idées reçues qu'ont les gens sur le calcul quantique, on me l'avait jamais faite celle-là.
Bah, en vrai, il y en a. C'est-à-dire que typiquement, il y a pas mal de gens qui pensent qu'ils vont avoir chez eux un ordi quantique.
Alors là, du coup, effectivement, on peut répondre. Les premiers ordinateurs quantiques, presque à coup sûr, ça va être comme les premiers ordinateurs. Peut-être qu'à un moment donné, on va casser une barrière technologique et que, j'en sais rien, on va trouver un super supraconducteur qui est proche de la température ambiante, si c'est les supraconducteurs qui gagnent la course, et qu'on pourra beaucoup miniaturiser. Mais les premiers ordinateurs quantiques, il y a fort à parier que ce seront des grosses, grosses machines dans des fermes de serveurs, quoi.
Un peu comme ces premières photos qu'on voit des ordinateurs qui prenaient des salles entières. Tu vois, c'est sûr que les premiers ordinateurs quantiques, ça ressemblera à ça.
Exactement.
Ce sera pas grave parce que quand on voit les applications, en fait, c'est de l'ordre de, c'est des trucs qui vont bénéficier à l'humanité sans pour autant qu'on en ait chez nous, en fait. Donc,
disons que si ton objectif c'est de regarder des vidéos sur YouTube, voilà quoi.
Ou de jouer à 500 FPS. Non, ça va pas t'aider. Mais en fait, faut voir plus loin. Voir plus loin parce que vraiment.
Mais après, tu pourras y accéder en ligne.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc finalement, c'est pas si grave qu'on n'en ait pas chez nous, quoi.
Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Je peux prendre quelques questions si vous en avez dans le chat. J'ai pas du tout regardé. Est-ce qu'on ferait pas cette démo?
Ah bah alors si vous voulez, mais il faut.
Il faut prier pour que ça marche.
Oh waouh! On a rapporté le sac.
On a ramené le sac.
Incroyable.
Potentiellement, faudra une petite rallonge, j'imagine. Tout est prévu. Dingue. Ouais. Une rallonge de rallonge, très conseillé ça.
Là, c'est le moment où on va voir si le truc a pas pris l'eau pendant les transferts.
Non, mais c'était sûr qu'on allait le demander. Moi, jamais je vois une machine aussi bien conçue. J'allais évidemment.
Non, Ulysse, le stress de l'expérimentateur là.
Oui, c'est ça.
Ulysse a fait ça tout seul sur ses week-ends.
C'est vrai.
Il a imprimé les pièces en 3D. Vraiment, il s'est chauffé.
Project sur l'imprimante 3D de ma chambre, quoi.
C'est trop bien.
Au lieu de rédiger sa tête.
Oui, on va espérer qu'il n'y ait pas un effet.
Non, mais ça, il faut pas le dire. Être le thèse.
Tu préfères rédiger une thèse.
Branché, non, c'est pas. Tu peux brancher le câble, s'il te plaît. Bon, alors là, c'est le moment du roulement de tambour. Ouais, déjà, le truc est sous tension. Alors, si j'appuie là, normalement, ça
démarre. Va exploser.
Oh ! Ok, donc là, je commente ce qui se passe en temps réel. Donc là, tu vois, on est en train de partir du vide et progressivement, on est en train d'injecter de l'énergie dans le pendule.
Ok.
Ça, le pendule est à résonance, ça amplifie. Et donc là, on va atteindre un régime stationnaire. Alors, ça bouge un peu, mais où, en réalité...
Regarde là.
Si tu regardes là, mais en fait, le problème de cette démonstration, c'est que c'est beaucoup plus parlant de la voir en vidéo, mais tu vois, le mouvement est symétrique que le pendule fasse gauche-droite ou droite-gauche, ouais. Et du coup, ça marche. Et tu peux voir aussi que
l'avantage de la vidéo, c'est que tu peux superposer des...
Exactement.
C'est vraiment là que tu vois que le truc marche.
Tout à fait. Voilà.
Je peux donner des pichenettes ou pas ?
Tu peux donner des pichenettes, tout à fait. Ah, c'est bon, il est resté du même côté. Il me semble bien que tout s'est bien passé.
Du coup, faut avoir l'œil, mais là...
Ouais, parce qu'un autre truc, c'est que c'est très dur de se rendre compte si t'as vu un bit flip ou pas. Il faut vraiment la vidéo en replay.
Qui n'a pas vu un bit flip, pardon, mais on dirait un move de skateboard. non, mais incroyable. Attends, c'est quoi la machine derrière ? Ça va ?
Ça, c'est juste une alimentation de laboratoire.
Ah oui, d'accord.
Évidemment. Et après, tu peux... Mais bon, là, je vais pas rentrer dans ce tunnel, mais tu peux régler la vitesse du moteur et ça va changer plein de trucs sur l'oscillation paramétrique, mais on va peut-être pas faire un cours de physique trop profond ce soir.
Merci. Non, mais déjà, on a eu un beau cours d'informatique quantique grâce à vous deux, donc merci énormément. Un tonnerre de love dans le chat. Vraiment, c'était passionnant et j'ai envie de vous rappeler dans quelques années, ou même moins, pour faire le
point. Quand on a fait marcher la correction d'erreur, on reviendra.
On vient. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici, vraiment.
Ça marche.
C'est trop, trop cool.
Merci beaucoup.
Et encore une fois, vous ne vous le direz pas parce que vous êtes trop humble, etc. Mais c'est possible qu'un jour, dans 10 ans, Alice et Bob, tout le monde connaît son nom. Hein, c'est possible. Hein, ou qu'il y ait un prix Nobel ou des trucs comme ça, vraiment. Et vous penserez à nous. Et vous reviendrez voir cette vidéo. Voilà. Franchement, c'est très excitant, en tout cas, de suivre cette... suivre ce domaine et d'avoir vos traductions en temps réel pour qu'on y capte un petit peu quelque chose, parce que sinon
si vous êtes on pas espère là, que on c'était est... un peu près clair on est toujours difficile à vulgariser la physique quantique de base c'est un enfer à vulgariser mais
et juste essayer de faire des jolies images pour que
c'est parfait, vous nous avez mis très bien, et si vous voulez en apprendre un petit peu plus justement, vous pouvez aller voir String Theory où tu fais des vidéos de vulgarisation qui sont même plus courtes parfois qu'ici, ou plus longues, je sais pas c'est quoi le format.
C'est vraiment des trucs de une minute là.
Est-ce que tu peux faire une pub pour les vidéos à venir peut-être?
Allez-y.
je voulais pas spoiler.
Pas de spoiler.
Non mais il y a des vidéos qui viendront plus longues sur l'ordinateur quantique. Okay. Faut juste que je fasse ça sur mes soirées, ça prend.
Merci encore à vous deux. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour la prochaine émission qui sera dans 2 semaines, mercredi à 19h. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez raté des petits bouts de cette émission, et ben il y aura les rediffs dans les prochains jours. Je crois que pour une fois, on a prévu de les sortir vraiment très très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis une très très bonne soirée et à la prochaine, tout simplement.
Ouais. Salut tout.
Bye bye.
Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.